18h, 20h,
Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier 18-20 de la semaine. Au menu de ce dimanche, 2 heures d'infos avec du sport et un invité exceptionnel, le dessinateur Luz. Il dit de lui, je suis un plan Vigipirate à moi tout seul. Rescapé de la tuerie de Charlie Hebdo, il vit désormais sous la menace des terroristes islamistes. Il nous a rendu visite avec pas moins de 6 gardes du corps. Demain lundi, autre chose, l'Assemblée va examiner le projet de loi dite taxe GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon, tous ces mastodontes qui échappent à l'impôt via l'évasion fiscale. On estime que les géants du numérique sont seulement taxés en Europe à 9% contre 23% pour les autres entreprises. Une majorité de Français est favorable à cette loi, mais pas Jean-David Chamborédon, coprésident de l'association France Digitale. Vous entendrez pourquoi. Et si l'invention, il y a plus d'un demi-siècle, de la pilule contraceptive n'était pas tout à fait la libération annoncée pour les femmes? Baisse de la libido, douleurs, dépression, migraines, risque de type embolie, cancer ou AVC. Ce constat est fait par une féministe, auteure d'un manifeste « Marre de souffrir pour ma contraception ». Sabrina Debusca sera avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous. Vous pouvez bien sûr réagir à ce grand journal du soir en publiant un commentaire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. 18h, bonne fin de week-end à tous. Le journal, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Philippe.
Au sommaire de votre journal ce soir.
Le 7 avril sera désormais en France jour de commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda, annonce faite ce matin par l'Élysée. On a évité le pire hier soir dans le 19e à Paris avec un feu très violent qui a touché un immeuble de 6 étages. Aucun blessé et toujours aucune explication ce soir sur l'origine de l'incendie. Cérémonie solennelle demain au Grand Palais pour les premiers enseignements du grand débat et puis les 35 ans de la Banque alimentaire qui aide ses bénéficiaires à manger mieux et plus équilibré.
Europe 1.
Le 7 avril sera donc désormais en France une journée de commémoration du génocide des Tutsis.
Décision annoncée donc ce matin par l'Élysée alors que le Rwanda commémore les 25 ans de ces massacres qui ont fait au moins 800 000 morts en 1994. Et cet après-midi, des rescapés du génocide participaient à une cérémonie à laquelle était conviée aussi la chanteuse Barbara Hendricks. Une cérémonie où ils se sont recueillis dans le parc de la Porte de Choisy, Victor Dolande.
Oui, beaucoup d'émotions dans ce jardin de la mémoire, 300 personnes réunies, un foulard blanc accroché au bras droit pour se souvenir du génocide. Alain prend la parole, il avait 15 ans en 1994, ses proches ont été abattus devant lui et 25 ans après, une image le hante encore.
J'ai vu cette dame qui s'appelle Laetitia avec son fils qui avait 2 ans. Le fils a reçu un coup de gourdin sur la tête alors qu'elle le portait sur son dos.
Pour Benjamin, il faut entretenir ce devoir de mémoire année après année pour ne surtout pas oublier.
C'est vital, il y a une union, on vient avec nos enfants et avec nos femmes et on est là, on est en France, on est souvent aussi au Rwanda pour reconstruire notre pays. Mais on est obligé d'avancer parce que c'est aussi l'avenir pour nos enfants.
Dans la foule, on discute aussi beaucoup des gestes du président Emmanuel Macron, la nomination d'une commission d'historiens pour faire la lumière sur le rôle de Paris au Rwanda et puis l'annonce du jour de commémoration. Autant de gestes intéressants mais insuffisants pour le président de SOS Racisme, Dominique Sopo.
Nous regrettons bien évidemment l'absence du chef de l'État, soit ici, soit à Kigali, parce qu'il faut que la France, définitivement, dise la vérité, se dise la vérité à elle-même sur ce qu'a été son attitude au moment du déclenchement du génocide, dans les mois du génocide et sur les 25 dernières années.
Ici, la communauté rwandaise veut que la France soit vraiment actrice pour enfin connaître toute la vérité sur ce génocide.
Victor Dolande avec, vous l'entendez, cette voix remarquable évidemment de Barbara Hendricks.
On ne sait toujours pas exactement ce qui a provoqué le violent incendie qui a touché un immeuble du nord de Paris hier soir.
Incendie particulièrement spectaculaire dans un bâtiment moderne de 6 étages dans le 19e qui n'a fait heureusement aucune victime, mais une trentaine de personnes ont dû être relogées pour la nuit dans un gymnase. Et ce soir, les deux gares sont encore très visibles, Chanel Petit.
Oui, la façade de l'immeuble totalement noircie par les flammes, la tôle fondue sur les balcons. Presque 24 heures après le drame, on sent toujours une forte odeur de fumée et de brûlé aux abords du bâtiment. L'ambiance est lourde. Certains habitants rentrent chez eux pour tenter de sauver quelques affaires. David vit au 2e étage avec sa femme et ses 4 enfants. Il ne reste presque rien de son appartement.
On a tout perdu. Tout. Rien.
peut rien récupérer.
Des chambres des enfants, des filles et des garçons, elles sont totalement calcinées. Bon, après, tout est inondé, noir de partout, voilà. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu se passer à 1h, 2h du matin et ça aurait été pire. Il y aurait plus, je pense qu'il y aurait eu des victimes.
Et s'il n'y a eu aucune victime à déplorer, c'est notamment grâce aux jeunes du quartier. Le fils de Saïda a permis à beaucoup d'habitants de cet immeuble de s'en sortir indemne.
Quand il a vu les flammes, ils se sont répartis en groupes, ils ont appelé tout le monde, ils ont toqué chez tout le monde. Ils sont rentrés dans tous les immeubles, tous ces immeubles-là. Ils ont prévenu les voisins et donc du coup les voisins ont pu sortir avant que les pompiers arrivent. Donc du coup ça a fait minimiser quand même les gros dégâts. Je suis très très fière de mon fils.
On ne connaît toujours pas ce soir les causes de cet incendie spectaculaire, ni ce qui a provoqué l'explosion après le départ des flammes. Il se pourrait que cela vienne de plusieurs bonbonnes de gaz entreposées sur des balcons.
Chanel Petit.
Alors qu'on est en plein débat sur la réforme des retraites, la question de l'âge de départ reste au cœur des interrogations.
Et pour le patron de Force Ouvrière, Yves Verrier, qui était l'invité de Bernard Poirette sur Europe 1, pas question que cet âge de départ soit retardé au-delà de 62 ans.
Déjà, l'âge moyen de liquidation de la retraite, c'est 63,3 ans quand on enlève les dispositifs de départ anticipé. Parce que pour beaucoup, ils ne sont déjà plus en activité. Ils retardent le moment de faire valoir leur pension pour pouvoir bénéficier d'une pension, d'un niveau de pension à peu près correct.
Oui.
Parce qu'avant 63,3 ans en moyenne, la pension ne suffit pas pour finir les fins de mois. 62 ans, c'est le droit de partir à la retraite, de faire valoir ses droits à la retraite et de bénéficier d'une pension.
On a le droit de continuer.
On peut continuer. Depuis très longtemps, selon les professions, des salariés préfèrent continuer pour améliorer les fins de mois, le moment venu de départ à la retraite. Mais pour beaucoup de salariés, 62 ans, c'est la borne qu'on attend avec impatience parce qu'on n'en peut plus.
Le patron de Force Ouvrière, Yves Verrier, ce matin sur Europe 1. Et dans une interview au Midi Libre, le haut commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, le redit bien ce matin. Sa feuille de route ne prévoit pas de toucher à l'âge légal de départ fixé à 62 ans, malgré ce qu'il appelle la polyphonie gouvernementale.
C'est demain lundi que le gouvernement va tirer les premiers enseignements du grand débat et ce sera au Grand Palais.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 18h08, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Clap de fin donc pour le grand débat.
Et c'est demain en effet que le gouvernement va tirer les premiers enseignements de tout ce que les Français ont dit depuis 4 mois dans la réunion publique ou sur Internet. Ce sera la première restitution de ce grand débat ouvert avec la crise des Gilets jaunes et cela va prendre une forme très solennelle, Jean-Rémy Baudeau.
Oui Fabienne, et bien concrètement, cette restitution très attendue va se dérouler dans le cadre très particulier du Grand Palais. Les résultats seront dévoilés par les instituts qui ont traité les millions de contributions des Français, tout ça sous l'œil attentif des garants et des ministres concernés. Ce sera en réalité la première étape d'une reprise en main politique après cette longue période de débat. En première ligne, Édouard Philippe, le Premier ministre, il prendra la parole à la mi-journée, sachant que tout repose désormais sur les épaules d'Emmanuel Macron. C'est lui et lui seul qui a la main sur les conclusions politiques de ce grand débat. Des annonces sont attendues avant Pâques par le chef de l'État. Emploi, décentralisation, petite retraite, pouvoir d'achat, santé. Les espoirs sont multiples et parfois contradictoires. L'exécutif, bien conscient que la suite du quinquennat se joue avec cette sortie de grand débat, ce matin dans la presse, la nouvelle porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, promettait qu'après ce grand débat, rien ne serait comme avant. Une promesse qui sonne en réalité comme une exigence, tant les attentes sont élevées pour des millions de Français.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Référendum sur la politique d'Emmanuel Macron, voilà ce que Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement National pour les Européennes, veut faire du scrutin du 26 mai prochain. Il faut mettre un carton rouge au président de la République, voilà ce qu'il a dit au grand rendez-vous européen CNews Les Échos, dont il était l'invité ce matin.
On termine avec le Tour de France de la Banque Alimentaire pour fêter ses 35 ans.
35 ans que l'association collecte des denrées alimentaires pour les redistribuer à ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter de quoi manger. Et pour cet anniversaire, la Banque Alimentaire a décidé d'aller à la rencontre de ses bénéficiaires pour joindre l'utile à l'agréable avec des ateliers cuisine pour manger, par exemple, plus équilibré. Le camion faisait étape dans l'Est cette semaine et notre reporter Charlotte Béchler est montée à bord.
Des plaques de cuisson, un four, un frigo, un évier et un gigantesque plan de travail. On en oublierait presque qu'on est dans un camion. À l'intérieur, ça s'active. Le menu du jour est dicté par Claudine, la chef.
Alors là, on va faire des cuisses de pâte à dos avec des champignons, du riz.
en dessert des fraises.
Autour de l'îlot central, deux bénéficiaires, Pascal et Claudine. Ils sont venus déjeuner, mais surtout mettre la main à la pâte.
C'est sympa,
c'est bien. C'est agréable.
Oui, faire connaissance avec des personnes qui sont dans la même situation que nous. C'est plaisant, c'est agréable.
Comme ça, ça vous convient ?
Gilles attend à la table. En béquille, c'est compliqué pour lui de cuisiner.
Je le ferai, oui. Je suis un ancien boulanger, alors j'aime cuisiner. Alors ça, c'est super bien dit.
Mais pour l'ancienne chef, cuisiner n'est qu'un prétexte. Cet atelier permet surtout les rencontres.
Dans les personnes qui peuvent venir, il y en a de toutes nationalités qui nous disent ce qu'eux, ils font avec les mêmes ingrédients. C'est un échange et c'est agréable. Puis en même temps, on en profite pour donner des petits conseils. Moins de sel, moins de gras, surtout moins de sucre. Et puis aussi de diversifier ce qu'ils ont l'habitude de faire.
Diversifier et s'adapter, la brigade de cuisine doit improviser le menu du jour avec les stocks proposés par la banque alimentaire du coin.
Charlotte Béchler.
Et c'était le journal de Fabienne Lemoal. Merci beaucoup Fabienne.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
La météo avec vous, Valérie Darmon, bonsoir. Demain, toujours humide au nord et sur la façade océanique.
Effectivement, Philippe, des Hauts-de-France et de la Haute-Normandie à l'est, le temps restera gris et faiblement pluvieux quasi toute la journée. De la Bretagne au sud-ouest, les nuages seront également nombreux et donneront quelques averses localement. Et il neigera toujours sur les Pyrénées au-dessus de 1600 mètres cette fois. Entre ces deux zones perturbées, le ciel hésitera. Entre nuages et éclaircies, ce sera le cas entre le nord de la Bretagne, la Basse-Normandie, le bassin parisien, la Bourgogne, le Lyonnais. C'est là que nous serons toujours privilégiés, comme ce week-end. Et là où le soleil brille vraiment, eh bien c'est dans les Alpes-Maritimes jusqu'en Corse. Les températures, le matin, elles oscilleront entre 1 et 9 degrés de l'intérieur vers les côtes avec localement 0 à moins 1 dans les vallées du Massif central et des Alpes. Attention à quelques gelées blanches sur l'est. L'après-midi, il fera 13 à 17 sur la plupart de nos régions, jusqu'à 19 dans le sud-est et sur l'île de Beauté.
Merci beaucoup Valérie Darmon, à tout à l'heure.
Le journal des sports.
Avec vous Simon Rubin, ce journal des sports. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Et vous commencez ce journal avec du rugby, un choc du top 14, Clermont Racing.
Eric Clermont qui est deuxième et qui peut profiter de la défaite de Toulouse hier pour se rapprocher du leader. Et le Racing, sixième, qui a besoin de points en cette fin de saison pour passer en phase finale. Et on retrouve à Clermont Damien Tardieu. Alors Damien, match spectaculaire qui est parti très fort et à l'avantage des Clermontois.
Exactement, 31-21 pour Clermont. Il reste 18 minutes à jouer ici au stade Marcel Michelin des Clermontois qui pourraient effectivement reprendre surtout 13 points d'avance sur le troisième et donc encore un petit peu plus consolider leur place dans le top 2 pour se qualifier directement pour les quarts de finale. Le Racing en face a effectivement besoin de points. Les Racingmen qui ont marqué deux essais dans cette partie par Dupichot et Clemenzac. Les Clermontois en sont à 4 essais. Des Auvergnats hyper réalistes en première mi-temps. On a eu une très très grosse intensité, notamment dans la première demi-heure. Ça a un petit peu faibli en deuxième mi-temps, mais ce match entre la première et la troisième attaque tient toutes ses promesses. L'enjeu est de taille et il reste du suspense. 31-21 pour Clermont. Il reste 18 minutes à jouer ici au Michelin.
Damien Tardieu en direct et puis un petit peu plus tôt dans l'après-midi, Lyon est allé gagner à Pau 27-24. Lyon 5e provisoirement.
Ça change du foot quand Lyon gagne. On va passer au football justement. Beaucoup de matchs cet après-midi, notamment celui de Lille, deuxième du classement.
Un match particulièrement important hein, puisque Lille devait gagner pour empêcher Paris de jouer le titre ce soir. Et sur la pelouse de Reims, eh bien, les Lillois n'ont pas fait mieux qu'un match nul. Alors Reims qui récupère ce point du match nul un partout n'est pas pour autant satisfait et vous allez entendre la colère du président Jean-Pierre Caillot pour une main lilloise non sifflée qui aurait dû donner pénalty.
Que l'arbitre ne le voit pas, je peux le comprendre, mais on a dépensé beaucoup d'argent à la Ligue de football pour doter l'arbitrage de la VAR. Quand je vais voir l'arbitre, il me dit « mais si, tout est sous contrôle ». Alors à mon avis, il doit falloir donner un labrador à celui qui contrôle parce que s'il n'a pas vu la main, il doit être le seul en France à ne pas l'avoir vu. Donc je trouve scandaleux parce que Reims est un petit club et qu'un Reims aujourd'hui dérange peut-être certaines personnes là où il est, qu'on nous vole 4 points quand on joue contre une grande équipe comme celle de Lille.
Jean-Pierre Caillot en colère au micro de Damien Ardoit. Il évoque 4 points volés hein, parce qu'il ajoute à ce match-là une erreur similaire qui avait eu lieu au match aller. Bref, la coupe est pleine. Alors résultat hein, quand même, c'est que Paris, en cas de victoire ce soir, sera sacré champion de France. Autre résultat aujourd'hui, hein, Toulouse a battu Nantes 1-0. Et puis en ce moment, Nice mène 1-0 également face à Montpellier. Alors au classement, Lille est toujours deuxième derrière Paris. 5 points d'avance sur Lyon. L'OL qui compte 6 points de plus que Saint-Etienne. 8 d'avance sur Marseille. Ce soir donc, c'est PSG Strasbourg.
Et puis un dernier mot, Simon, de cyclisme.
Oui, c'était le Tour des Flandres, la classique ardennaise, course de prestige et une petite surprise avec la victoire de l'Italien Alberto Bettiol de l'équipe Education First. Il l'emporte en solitaire après s'être échappé à moins de 20 km de l'arrivée. C'est son premier succès professionnel.
Education First, j'adore le nom de cette équipe. Merci Simon, à tout à l'heure.
Europe 1.
Mon prochain invité s'est fait connaître en 2012 en menant la fronde des pigeons, ces entrepreneurs qui dézinguaient la politique fiscale de François Hollande. Aujourd'hui, il ne retient pas ses coups contre la taxe sur les géants du numérique, la taxe GAFA. Le projet arrive demain à l'Assemblée. On en parle avec Jean-David Chamboredon dans un instant.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 18h17, votre grand journal du soir se poursuit avec votre premier invité, Philippe Vandel. On va parler d'un sujet qui hérisse les Français.
Oui, car demain, l'Assemblée nationale va examiner le projet de loi dite taxe GAFA. Bonsoir Jean-David Chamboredon.
Bonsoir.
Vous êtes co-président de l'association France Digital, mais d'abord, une question d'actualité. Vous êtes apparu sur la scène médiatique, c'était en 2012, au moment de la fronde des pigeons. C'était sous François Hollande. Et malgré vous, vous avez été le porte-parole de la révolte de dizaines de milliers d'entrepreneurs contre le projet de taxation des plus-values de cession. Et vous avez fait reculer le gouvernement. J'imagine que vous avez lu l'interview aujourd'hui de Gérald Darmanin, le ministre, dans le JDD ce matin. Il annonce que les impôts vont encore baisser. D'abord, est-ce que vous-même, vous les avez vus baisser?
Je crois que la trajectoire générale que veut donner le gouvernement aux impôts en France, c'est une trajectoire de baisse.
Oui.
Ceci dit, on part de très haut, puisqu'on est un pays où les prélèvements obligatoires sont très élevés.
C'est le premier ou le second du monde, sûrement, la manière dont on compte.
Absolument.
Deuxième du monde, pardon.
Alors après, il y a des exigences budgétaires, il y a le déficit public est important, etc. Et donc les baisses ne peuvent pas être massives et instantanées sur tous les fronts. Mais globalement, j'ai l'impression que ce gouvernement veut faire baisser les impôts.
Qui veut, personne n'en doute, est-ce qu'il va le faire? C'était le sens de ma question. Parce que tous voulaient le faire. Depuis que je suis en âge de suivre l'actualité, ça fait déjà du temps, tous les gouvernements ont promis qu'ils allaient baisser les impôts et tous ne l'ont pas fait. Ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, par exemple.
Déjà, François Hollande, quand il est arrivé, a dit « je vais les augmenter fortement ». Donc, l'intention était différente. Emmanuel Macron est arrivé président de la République en disant « je vais baisser les impôts ». Encore une fois, il y a des problèmes de déficit budgétaire, il y a des problèmes de budget, il y a des problèmes de... Et donc, c'est compliqué. Mais je crois que l'intention de baisser les impôts pour tous les Français est une intention gouvernementale.
Alors, je vais parler de la taxe GAFA, car c'est le sujet principal qui nous préoccupe. Les GAFA sont Google, Apple, Facebook, Amazon et toutes ces entreprises du digital qui échappent à l'impôt en pratiquant l'évasion fiscale, car elles peuvent domicilier leurs profits ailleurs qu'en France. On estime que les géants du numérique sont seulement taxés en Europe à 9% grâce à cette évasion fiscale, contre 23% contre les autres entreprises. Les Français sont très nombreux à approuver cette taxe GAFA, et vous aussi, je vous cite, vous dites « elle est aussi nécessaire démocratiquement que juste économiquement ». Sauf que, si je vous suis, vous estimez que le remède pourrait être pire que le mal et qu'elle pourrait faire souffrir les entreprises françaises et européennes, expliquées.
Alors, effectivement, la légitimité politique d'une taxe sur les grands acteurs du numérique, elle est là. D'ailleurs, la France n'est pas le seul pays à le faire. L'Italie, l'Espagne, l'Autriche, etc. sont dans une démarche similaire. Même la Grande-Bretagne est dans cette démarche. Après, la difficulté, c'est qu'on appelle ça taxe GAFA, mais c'est une taxe sur les services numériques et que ceux qui vont payer cette taxe ne sont pas que les GAFA. Et donc la difficulté, c'est...
C'est 30 entreprises, c'est pas non plus une immense majorité.
C'est 30 entreprises, mais...
Dont les chiffres d'affaires, alors il faut que je retrouve mes chiffres, dont le chiffre d'affaires sur les activités numériques dépasse les 750 millions d'euros dans le monde et plus de 25 millions d'euros en France. C'est pas le coiffeur du quartier. Hein.
On est d'accord, c'est une trentaine de sociétés qui vont être touchées par cette taxe, si elle est votée en l'État.
Ouais.
Mais parmi elles, il y a des sociétés qui... payent leurs impôts en France, payent de l'impôt sur les sociétés, sont même d'origine française ou sont françaises, et donc on se retrouve, et sont en concurrence d'ailleurs avec les GAFA.
Ouais.
Donc on se retrouve avec une double punition pour ces gens-là, c'est non seulement ils payent l'impôt en France, mais en plus on leur rajoute une taxe. Et puis il y a toutes les start-up qui un jour passeront les 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui un jour seront peut-être intégrées dans un groupe qui fait plus de 750 millions, qui elles aussi seront assujetties à cette taxe. Ça veut dire quelque part que vous apportez un discount à la valeur de ces entreprises en mettant cette taxe en place.
Oh.
Et c'est une des raisons pour lesquelles France Digital s'est mobilisée.
Autre problème selon vous, cette taxe cible le chiffre d'affaires. Expliquez pour les gens qui sont des novices en matière d'économie, en quoi c'est un souci de cibler le chiffre d'affaires?
Parce que suivant le modèle économique d'une entreprise, un euro de chiffre d'affaires, ça peut conduire à 90 centimes de profit ou 50 centimes de profit ou 10 centimes de profit. Et donc, quand vous taxez sur le chiffre d'affaires, par définition, vous êtes dans une logique très défavorable à des acteurs qui, par exemple, achètent et revendent par rapport à des acteurs qui ne font que qui produisent et qui vendent. Donc, nous, d'ailleurs, on a proposé aux parlementaires et au gouvernement de faire évoluer l'assiette de cette taxe du chiffre d'affaires vers ce qu'on appelle la marge brute, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les achats qu'on fait, de façon à ce qu'elle soit un peu moins, on va dire, injuste pour les acteurs qui n'ont pas le modèle économique d'un Google ou d'un Facebook.
Justement, j'allais justement vous poser cette question de l'alternative. Comment faire autrement ? On ne peut pas cibler les bénéfices, puisque justement, les bénéfices sont, par ces grandes entreprises, sorties de France. Quand vous achetez un produit Apple, vous êtes débité non pas en France, mais en Irlande ou au Luxembourg. Donc on est bien obligé de taxer le chiffre d'affaires. Est-ce que ce n'est pas la moins pire des solutions ?
Alors, on va demander à ces grandes entreprises de déclarer leur chiffre d'affaires en France. Leur demander de déclarer une marge brute n'est pas plus difficile que de déclarer un chiffre d'affaires.
Elles vont le faire, selon vous ?
Elles vont le faire avec une capacité de contrôle par l'État français qui sera ce qu'elle sera.
Ouais.
Par définition, il y aura une partie qui sera déclarative. Et de toute façon, calculer un chiffre d'affaires sur Internet, c'est pas simple. Hein. Si un annonceur pan-européen achète une campagne publicitaire couvrant toute l'Europe, dire le chiffre d'affaires que j'ai fait en France, c'est précisément ce chiffre-là, c'est de toute façon quelque chose qui est compliqué à calculer.
Alors Bruno Le Maire, le ministre, connaît évidemment les limites de sa propre loi et il vous a répondu par avance. Voilà ce qu'il dit le ministre. Dénoncer l'ineptie économique de prendre comme base le chiffre d'affaires, c'est un prétexte pour ne rien faire. Aujourd'hui, c'est notre seule possibilité. Si vous avez une meilleure solution, je suis preneur et vous venez de donner votre meilleure solution. Vous l'avez rencontré
plusieurs fois, oui.
Bruno Le Maire.
Absolument.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
Ben, en fait, la conversation qu'on a eue, c'était effectivement sur le fait qu'il fallait qu'il y ait le moins possible de victimes collatérales parmi les groupes de taille moyenne à cette taxe. Et je crois que la volonté du gouvernement, c'est pas d'élargir le nombre de groupes éligibles. La difficulté, c'est de trouver le bon chemin qui soit constitutionnellement correct. Parce que si vous faites une taxe qui ne touche que trois entreprises, ben, y a un petit côté discriminatoire qui n'est pas simple, évidemment, juridiquement à traiter.
Alors, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, n'est pas dupe, je vous l'ai dit, des limites de cette taxe. Pour lui, elle servira de levier, c'est ça qui est le plus important peut-être, dans les négociations internationales. Bruno Le Maire espère un accord d'ici 2020 au sein de l'OCDE et assure que dès que cet accord sera obtenu, à une échelle globale, la France va retirer sa taxe nationale.
Alors,
est-ce que ça vous sied ?
Effectivement, c'est la promesse de s'il y a un accord international sur la taxation des profits dans le monde, cette taxe disparaît. C'est effectivement une promesse importante. On est bien dans un dispositif qui est réputé temporaire. Ceci dit, en France, on a vu des taxes temporaires rester très longtemps et même devenir pérennes.
Oui.
Donc, on sera forcément vigilant par rapport à ça. Maintenant que cette taxe permette de mieux négocier, notamment avec les Américains, dans le cadre de l'OCDE sur la fiscalité internationale des profits, ben j'espère que le ministre a raison.
Avant les Américains, il y a les Européens. Alors cette taxe GAFA à la française, justement, s'inspire d'un projet européen qui n'a pas abouti le mois dernier en raison des réticences de quatre pays, l'Irlande, la Suède, le Danemark, la Finlande. La solution est européenne, mais comment faire changer d'avis nos partenaires quand on sait, par exemple, les profits que retire l'Irlande du dumping fiscal, l'Irlande qui a le siège d'Apple sur son sol ?
Alors, on va mettre l'Irlande de côté parce qu'effectivement, c'est elle, par elle que passe le mécanisme d'optimisation fiscale dont vous parliez tout à l'heure. Mais prenons les pays scandinaves. Ils ont refusé le système proposé par l'Europe qui ressemblait beaucoup à la taxe proposée en France aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils le trouvaient économiquement absurde. Taxer un chiffre d'affaires, encore une fois, ce n'est pas une bonne solution. Bon, et puis il y a quelques grands acteurs, notamment en Suède, il y a Spotify qui aurait été sans doute taxé. Voilà. C'est leur grand champion. C'est d'ailleurs le grand champion européen de l'Internet. Hein. Mm-hmm. C'est une des rares entreprises européennes dans l'Internet qui valent plus de 10 milliards de dollars. Et donc, ils ne voulaient pas que leur grand champion soit touché. Et ça se comprend.
Ah mais attendez, il y avait une chose que je n'avais pas comprise. C'est que si on arrivait à faire une loi à l'échelle européenne, on serait quand même obligé de taxer sur le chiffre d'affaires et non pas sur les bénéfices.
Absolument. Le projet que portait la loi, le projet portée la Commission européenne était un projet très similaire. C'était une taxe sur le chiffre d'affaires des services numériques. Ce qui peut changer, c'est un accord OCDE, et là c'est beaucoup plus large que l'Europe, hein, je crois que c'est 120 ou 130 pays, où on se met d'accord sur une façon de ne pas taxer dans deux pays différents, mais de pouvoir taxer dans chaque pays.
Je reviens à l'Europe et j'ai une question plus politique qu'autre chose. À l'heure actuelle, pour qu'une mesure fiscale soit adoptée à l'échelle de l'Europe, il faut l'unanimité des 27, bientôt 26 si les Britanniques s'en vont. Certains États réclament que l'on passe à la majorité qualifiée, c'est-à-dire qu'on vote. Mais pour passer à la majorité qualifiée, il faut d'abord l'unanimité. Est-ce que ce n'est pas insoluble ?
Le sujet de la souveraineté fiscale des États, c'est un sujet compliqué. C'est sûr que le jour où on abandonne cette souveraineté État par État en Europe, l'Europe change. Sans doute qu'elle pourra faire beaucoup plus de choses. Mais la question, c'est est-ce que les Européens veulent ça ? Est-ce que les pays européens veulent ça individuellement ? Je pense que les élections européennes qui s'annoncent dans 2 mois devraient mettre ce sujet sur la table. Est-ce que la gouvernance de l'Europe devrait changer ? Est-ce que les règles de majorité devraient changer ? Et est-ce qu'effectivement, on accepte une forme de démocratie à l'échelle du continent ?
Et en tout cas, les Français veulent cette taxe. Merci beaucoup Jean-David Chamboredon. Je rappelle que vous êtes co-président de l'association France Digitale. Question, et si la pilule contraceptive n'était pas tout à fait la libération annoncée ? J'ouvre les guillemets, baisse de la libido, douleur, dépression, migraine, risque beaucoup plus grave de type embolie, cancer ou AVC. Ma prochaine invitée, Sabrina Debusca, en a marre de souffrir pour sa contraception. C'est le titre de son livre, elle est avec nous dans un instant.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Philippe Vandel sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir.
Et c'est maintenant l'heure du rappel des titres avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Aujourd'hui marque les 25 ans du génocide au Rwanda. À cette occasion, Emmanuel Macron déclare vouloir faire du 7 avril une journée de commémoration. Le président annonce également la mise en place d'une commission d'historiens afin de faire la lumière sur le rôle de la France dans cette tragédie. Permettre à tous les enfants de pouvoir manger le midi. À compter de la fin du mois, le gouvernement mettra en place la cantine à 1 euro pour les plus défavorisés. D'ici 10 jours, le petit déjeuner à l'école sera testé dans 8 académies. À compter de demain, à la restitution du grand débat, Édouard Philippe commencera la synthèse de toutes les doléances reçues. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a promis que rien ne sera comme avant. Les Algériens de France, à nouveau dans la rue à Paris, sont des milliers à s'être de nouveau rassemblés pour réclamer un vrai changement de régime. Une manifestation quelques jours après la démission d'Abdelaziz Bouteflika et alors que le président par intérim sera désigné mardi.
Merci beaucoup Sophie, à tout à l'heure 19h pour votre journal complet.
Europe 1. La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
La météo maintenant avec vous Valérie Darmon. Le ciel se calme mais reste nuageux partout. Tout est question de dosage.
Et oui, c'est une question de bémol. Alors, de la Bretagne aux Pyrénées, vous passez la journée sous un ciel menaçant avec un risque d'averse à nouveau orageuse l'après-midi. En Nouvelle-Aquitaine, il neige au-dessus de 1500 mètres sur les Pyrénées et le Massif central. Des côtes normandes à l'Occitanie, en passant par le Massif central, justement, c'est plus calme, malgré des passages nuageux denses et nombreux, mais sans pluie. Des Hauts-de-France à l'Alsace, vous conservez un temps instable avec quelques averses ici ou là. Et depuis le Lyonnais jusque près de la Méditerranée, là vous passez la journée au sec, malgré le passage de nombreux nuages élevés. Je vous donne la fourchette des températures dans les normales de saison, quasi inchangées par rapport à aujourd'hui, entre 12 à Saint-Brieuc ou encore à Belfort, et 19 à Avignon, 18 annoncés à Paris.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Il est 18h30, vous êtes bien sur Europe 1 et maintenant avec vous Philippe Vandel et votre invité. Eh bien on va évoquer un sujet qui concerne les femmes, mais les hommes aussi.
Et si l'invention, il y a un demi-siècle, de la pilule contraceptive n'était pas tout à fait la libération annoncée ? J'ouvre les guillemets. Baisse de la libido, douleur, dépression, migraine, risque beaucoup plus grave de type embolie, cancer ou AVC. Je ferme les guillemets, ce constat est fait par une féministe, spécialiste santé, auteure d'un livre qui avait beaucoup fait parler, il s'appelait « J'arrête la pilule ». Bonsoir Sabrina Debusca.
Et bonsoir à tous.
Et vous venez de publier un manifeste, marre de souffrir pour ma contraception, c'est aux éditions LLL, c'est-à-dire les liens qui libèrent, c'est le nom de la maison d'édition, ça pouvait pas mieux tomber. Votre thèse, la contraception est un lien qui libère les femmes, mais qui également les asservit, expliquez.
Eh bien, beaucoup de femmes sont extrêmement heureuses, notamment les femmes de ma génération, j'ai 31 ans. On est extrêmement heureuses d'avoir la contraception, la pilule et le droit à la contraception. Maintenant, la petite nuance qu'on ajoute, c'est qu'on nous dit depuis 60 ans, la meilleure contraception est celle que l'on choisit parmi celles qui existent. Nous, on veut ajouter, encore faut-il que les options soient satisfaisantes. C'est-à-dire que beaucoup de femmes actuellement prennent en charge la contraception dans le couple. C'est 90% des femmes qui prennent des contraceptions et elles en ont marre en fait des effets secondaires qui vont gâcher leur quotidien.
Avant de parler des effets secondaires, déjà ça, moi je connaissais la charge mentale des femmes. Vous créez le concept de charge contraceptive, c'est quoi ?
La charge mentale contraceptive, c'est le fait que la femme soit considérée par l'ensemble de la société, son compagnon, ses parents, son médecin, comme naturellement en charge de la contraception, puisque c'est elle qui a le risque de grossesse.
Et ça va pas de soi selon vous ?
C'est pas que ça va pas de soi, mais c'est que ça signifie pour une femme chercher une contraception. Donc aller chez le médecin, subir des examens du type se faire trifouiller le col de l'utérus une fois par an, payer cette contraception et en plus en subir les effets secondaires. Et une fois qu'on a fini ce parcours-là, quand on vient dire à notre compagnon, écoute, j'en ai marre d'avoir des migraines, des baisses de libido à cause de ma contraception. On rabroue un peu ces femmes et on étouffe un petit peu cette parole en leur disant, entre guillemets, que c'est le prix à payer, que c'est comme ça et que c'est pas autrement.
C'est quoi, selon vous, après votre enquête, les effets indésirables de la pilule ?
Ah bah c'est même pas selon moi, ça il suffit de lire une notice de pilule, comme j'en cite une pour montrer un petit peu le nombre d'effets, il y a énormément d'effets différents. Après, il y a deux types d'effets qu'on peut catégoriser différemment. Il y a les effets graves, qui vont jusqu'à la mort ou au handicap, donc là on a par exemple les cancers ou les accidents thromboemboliques, c'est ce qu'a eu Marion Lara, les AVC, embolies pulmonaires, etc.
Il y en a combien par an des morts ?
Eh bah alors, figurez-vous que je suis la première personne sur la Terre entière en 60 ans qui a eu l'idée de se poser cette simple question. Donc avec une toxicologue, on a fait le calcul. On a pris juste deux effets secondaires graves des contraceptions hormonales. Cancer du sein et accident thromboembolique. En France, avec 5 millions de femmes qui utilisent des contraceptions hormonales, on atteint le chiffre, et c'est extrêmement sous-estimé, de plus de 3000 femmes qui se retrouvent chaque année à l'hôpital à cause de leur contraception, et 83 à minima qui décèdent.
Alors c'est évidemment 83 de trop, mais on peut voir les choses différemment. Il y a chaque année 20 000 morts dans les accidents domestiques, 500 par intoxication alimentaire. On ne va pas dire aux gens, arrêtez de cuisiner, arrêtez de bricoler chez vous.
Non, moi en fait j'essaie juste de porter une amélioration de la contraception. C'est-à-dire qu'on a des contraceptions médicales qui sont hyper efficaces, et c'est ce que voulaient les féministes des années 60, on les a eues. Ma génération est en train de porter un nouveau concept qui est ok, une contraception efficace, mais sans ses effets secondaires, parce qu'on ne sait pas sur qui ça va tomber, on ne sait pas quelle femme va avoir un cancer, et on n'a pas envie en tant que femme, juste pour notre sexualité, on n'est pas malade, juste pour faire l'amour et avoir du plaisir, d'affronter ces risques-là.
Alors j'ai découvert ça en vous lisant, vous relevez cette contradiction, beaucoup de femmes sous pilule souffrent d'une baisse du désir sexuel.
20 à 40%.
Alors que c'est quand même à ça que ça sert.
Ben exactement, c'est un petit peu paradoxal. Et ça, c'est un énorme tabou de la pilule, qui pourtant est connu depuis le début de l'histoire de la pilule, puisque dans J'arrête la pilule, j'avais retracé l'histoire de la pilule qui est passionnante. Et Gregory Pincus, l'inventeur américain de la pilule, savait d'emblée que la pilule créait des baisses de libido, puisqu'il du coup, il avait eu l'idée de la décliner en castration chimique pour les homosexuels. Donc c'est connu depuis le début de la pilule, mais c'était la sexualité des femmes dans les années 50. Leur plaisir, on s'en fichait un petit peu.
J'ose imaginer que ça progresse et que ça progressera encore. Alternative, vous dites qu'il faudrait que les hommes prennent leur part dans les moyens de contraception, il y a le préservatif. Vous révélez d'autres techniques, et là aussi j'ai relu trois fois, comme le slip chauffant. C'est une blague.
Alors, c'est pas une blague, il y a vraiment des hommes qui l'utilisent en France. En fait,
ils sont combien ?
Alors, ils sont une dizaine. Hein.
Ah, d'accord.
Voilà, c'est pas très courant. En fait, bon, moi je pense très sincèrement, et j'en fais partie de ces femmes qui voudront toujours garder la main sur leur contraception. C'est nous qui avons le risque de grossesse, donc je pense qu'il y aura toujours une contraception féminine, ça c'est clair. Mais la contraception masculine, elle est là pour tous ceux qui sont intéressés par le fait de partager ça dans le couple. Et donc, si on projette pas notre regard en tant que société vers ça, on va jamais rien développer de mieux. Et si on a que des préservatifs hyper épais qui emmerdent tous les mecs, clairement, ça va être difficile de partager la charge contraceptive. Donc là-dessus, il faudrait faire de la recherche, d'où la demande qu'on fait avec d'autres amis féministes d'une concertation nationale sur le sujet pour débloquer des budgets.
Et puis vous voulez également démisogyniser la gynécologie. Vous avez 30 secondes pour m'expliquer en quoi c'est une discipline misogyne.
Eh bien en fait déjà le terme de gynécologie fait appel au fait de porter le regard sur la femme. La gynécologie a été inventée uniquement par des hommes et a une histoire extrêmement violente qui nie totalement la femme, son corps et qui tente de le contrôler. Et malheureusement, particulièrement en France puisqu'il y a une histoire aussi avec l'Église, le christianisme, cet état d'esprit infuse encore un petit peu dans la gynécologie avec par exemple des examens inutiles. Est-ce que les hommes accepteraient de se faire toucher la verge chaque année est-ce que voilà, nous on se
soumet. Moi je vais vous répondre, si on nous dit que c'est pour notre bien, oui.
Oui, mais si c'est inutile et qu'on se rend compte que finalement ça fait partie de tout un corpus de gestes qui finalement s'inscrivent dans la soumission des femmes à la société, là on se dit c'est plus problématique. Moi je suis une femme, j'ai envie de faire l'amour, de prendre du plaisir, j'ai pas envie qu'il y ait un médecin qui vienne ingérer dans ma vie sexuelle, j'ai pas envie de devoir écarter les jambes chaque année et qu'on vienne mettre des mains étrangères dans mes organes génitaux pour avoir une sexualité. Et je suis loin d'être la seule.
Merci Sabrina Debusca, je le rappelle, vous êtes l'auteur du livre Marre de souffrir pour ma contraception, c'est aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci.
Merci. Europe 1.
Europe 1.
Il dit de lui « Je suis un plan Vigipirate à moi tout seul ». Le dessinateur Luz, rescapé de Charlie Hebdo, vit désormais sous la menace des terroristes islamistes. Il nous a rendu visite avec pas moins de 6 gardes du corps. Tout ça pour parler de son dernier album et une exposition de dessins originaux consacrée aux Misfits, le dernier film de Marilyn Monroe. Sa parole est rare, profitons-en. Et puis juste après, la chronique média de Renaud Revel, que va devenir la redevance télé.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
On vous retrouve, Philippe Vandel, pour la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. 18h39, on va maintenant entendre quelqu'un de très rare en radio.
Bonsoir Luz.
Bonsoir.
Vous êtes dessinateur, humoriste, caricaturiste, notamment dans Charlie Hebdo. Un de vos dessins a fait le tour du monde. Malheureusement, c'était le dessin de Mahomet sur fond vert qui disait « Tout est pardonné ». C'était le numéro d'après la tuerie des frères Kouachi qui a coûté la vie à vos collègues et potes Charb, Cabu, Volinsky, Tignous et Honoré. C'était le 7 janvier 2015. Là, vous avez une double actualité. Une expo de dessins à la galerie Hubertier et Brenne jusqu'au 4 mai et un album Hollywood Menteur, c'est chez Futuropolis, c'est du grand format en noir et blanc, absolument magnifique. Vous revisitez le tournage des Misfits, en français le film s'appelle Les Désaxés, film de Houston, avec Marilyn Monroe, Clark Gable, Montgomery Cliff. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce film? Comment avez-vous travaillé? Je sais, ça fait beaucoup de questions.
Ouais, ça fait beaucoup de questions, ouais. Peut-être que ça correspond un peu à ce qu'on est peut-être un peu tous. Surtout que les Misfits, c'est pas tout à fait les désaxés, ça veut dire ceux qui ne s'assemblent pas. Ouais. Et après, voilà, quand on vit des événements un petit peu étranges, on est désassemblé. Ouais. Peut-être que justement, aller voir des personnages désassemblés, des gens qui ne marchent plus ensemble, qui sont des puzzles, des kaléidoscopes psychologiques, c'était peut-être pas mal.
Ça, c'est un film. Ouais. Mais pourquoi avoir fait un album d'un film? Que racontez-vous? Moi, j'ai lu, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu.
Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, donc, je raconte les coulisses d'un tournage, d'un film avec Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift, scénarisé par Arthur Miller, qui était le mari de Marilyn Monroe, avec John Huston derrière la caméra. Un film en noir et blanc qui a été un échec commercial total pour 4 millions de dollars.
C'est pas vrai?
Ouais.
Ah,
ouais.
Je crois que c'est un succès parce que moi, on me l'a appris comme un chef-d'œuvre, parce que le film est ancien. Je savais pas que c'était un four.
Ah non, c'est un four. On est persuadé que, parce que c'est ancien, tout le monde l'a vu, mais personne. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui allaient au cinéma, mais malheureusement, ça n'a pas trop bien marché parce que c'était peut-être trop morbide parce que entre temps Clark Gable est mort et puis quelques années plus tard Marilyn Monroe sera morte. Là, ça deviendra non pas un chef-d'œuvre mais un film culte parce que souvent quand les gens meurent ils deviennent cultes.
Mais moi ce qui m'intéresse c'est vous.
Ouais.
Pourquoi ce film vous tape dans l'œil? C'était après l'affaire Charlie Hebdo?
Alors non, la première fois que je l'ai vu, c'était avant. Ouais. C'était en 2014 au cinéma. C'était à l'époque où je pouvais aller au cinéma, dans des fauteuils, dans les vrais fauteuils. Et il y avait quelque chose qui m'intriguait. C'était la première fois que je voyais Marilyn Monroe aussi étrange, aussi peu sexe symbole, aussi, quand même assez sexe, mais un peu différente. Et puis après les attentats, ce film est revenu. Il a buté dans ma tête régulièrement. Et il a fallu que je comprenne pourquoi il y avait quelque chose qui coinçait. Alors il a fallu que je dessine. Quand je comprends pas les choses, je dessine.
Et alors, est-ce que vous avez compris à la fin?
Eh bien, je crois que oui. Le truc qui est terrible dans ce film, c'est que les acteurs sont figés dans leur symbolique. Houston s'est dit, tiens, je vais prendre un cow-boy vieillissant, je vais prendre une actrice sex-symbole qui part en sucette. Il a essayé d'utiliser cette matière-là pour en faire une œuvre un peu bizarre. Mais en même temps, à la fin du film, ouais, finalement, tout le monde... Marilyn Monroe reste Marilyn Monroe, finalement Clark Gable reste le cow-boy. Et en fait, moi ce qui m'intriguait dans ce film, c'était comment on s'en sort quand on devient un symbole.
Et quand on est Luz et qu'on est un symbole, puisqu'on est un des rares dessinateurs survivants et emblématiques de Charlie Hebdo, est-ce qu'on s'en sort quand on est un symbole? Je pose la question que vous venez de poser.
On essaye, on tente. En tout cas, le problème du symbole, c'est qu'on est le symbole dans le regard des autres, de toute façon. Moi, je n'ai pas décidé de survivre, je n'ai pas décidé que tous les médias me tiennent le crachoir. Et puis maintenant, il n'y a plus grand monde, en fait. Maintenant, tout le monde s'est barré. Moi, je suis tout seul dans ma merde aussi, dans un autre... Je me débrouille, je suis dans ma vie. Je suis peut-être revenu avec quelque chose d'autre. Et en même temps, vous avez commencé l'émission en parlant de Charlie Hebdo, du drame. Comment on fait pour être autre chose que ce qu'on vous a obligé à être?
Dans quel sens vous êtes dans votre merde, pour reprendre vos termes?
Enfin, je suis revenu dans ma merde, peut-être.
Virginie Despentes a signé une très belle postface. Elle raconte que vous l'avez appelée un jour pour lui demander une photo de Marilyn Monroe en colère. Il n'y en a pas.
Et il n'y en a pas. C'est pas que je lui ai appelé pour... on a conversé sur le fait qu'il n'y avait pas de photo de Marilyn Monroe en colère. Je lui ai demandé si elle en connaissait, ouais, une. Et elle disait, mais non, pas du tout.
Et quel sens ça a?
S'il n'y a aucune photo de Marianne en colère, c'est qu'on a jamais lu, on ne lui a jamais offert la possibilité de l'être, la possibilité de lui offrir une image d'elle en colère. Et dans le film de John Huston, dans Les Misfits, elle est en colère à un moment donné. Mais la caméra est en retrait, avec une grande pudeur. C'est très beau, c'est très graphique, mais c'est terrible. C'est la seule scène dans toute sa carrière où elle pouvait être en rogne. Et il n'y a pas eu de photo, il n'y a pas eu d'image, même pas eu de scène. Et moi, j'avais envie de zoomer un petit peu, de faire un zoom avant et d'aller voir ce qui se passait derrière.
Et c'est d'ailleurs la couverture du livre. Alors, je l'ai dit, c'est une expo de dessins à la galerie Huberti Brenn jusqu'au 4 mai. On peut acheter des dessins ?
Oui, c'est possible. Ouais, ouais, ouais. Et c'est marrant parce que d'habitude, quand je faisais du dessin de presse à l'époque, on dessine sur du PQ, on dessine sur des papiers de merde. Le problème, c'est que
et là, c'est du beau papier.
Et là, le problème, c'est que c'est du beau papier.
Mince.
Non, c'est peut-être, c'est intéressant parce que il a fallu décélérer, prendre du temps. Et prendre du temps, c'est-à-dire écouter, prendre le temps d'écouter la plume sur le papier, et faire. Et ça donne des. Il y a besoin de beau papier pour ça.
Vous pourriez revenir, Luz, au dessin d'actualité ?
Jamais.
Ah bon ?
Non.
Zut
enfin,
alors.
Oui et non, oui et non.
Parce
non,
que je veux vous dire, dans votre précédent livre, qui s'appelait Indélébile, vous imaginiez ce que l'équipe de Charlie, les Cabus, les Volinsky, les Tignoux aurait fait de la mort de Johnny ? Et moi, j'aimerais bien savoir ce que vous feriez de l'affaire Benalla, par exemple. Vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez dit, Benalla, c'est un personnage magique.
Bah oui, Benalla, c'est un personnage qui se transforme, qui grossit, qui va probablement maigrir. C'est un personnage assez rigolo. Et puis, il a une bonne tête. Il ressemble, comment dire, il a une bonne tête de con que t'as déjà croisé plusieurs fois. C'est ça, en fait, le truc, la caricature ou le truc qui est fascinant chez les gens. C'est que tu vois quelqu'un et puis il ressemble à quelqu'un d'autre. Alors, peut-être qu'il ressemble à un type super, peut-être qu'il ressemble à un con, peut-être qu'il ressemble à un aviateur, peut-être qu'il ressemble à un cosmonaute, peut-être qu'il ressemble à un auditeur d'Europe 1, on sait pas.
Et dis donc, commencez pas à traiter les auditeurs de cons.
Non, bon, voilà. Non, pas du tout. Ah, bah, je parlais des aviateurs aussi.
Et les aviateurs, pareil. Vous m'avez pas répondu.
Ouais.
Mais avec tout ce que vous dites, on a envie que vous vous remettiez à dessiner.
Moi, j'ai quelque part un peu envie de me remettre à dessiner, mais pas en dessinateur de presse, en journaliste. Juste en reporter de presse. C'est moi ce qui m'a manqué récemment, c'est de ne pas être sur un rond-point avec des gilets jaunes. Moi, j'avais envie d'entendre, j'avais envie de dessiner la tête des gilets jaunes, j'avais envie que de les voir autrement que par le biais de BFM, quoi. Et malheureusement, on va pas sur un rond-point de gilets jaunes avec ces flics. C'est un peu contre-productif.
Parce que je dois dire aux auditeurs que vous avez tout le temps, en permanence, une protection policière. Merci d'avoir été avec nous, Luz, ici, dans ce studio à Europe.
Merci beaucoup.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec Philippe Vandel sur Europe 1. Renaud Revel est en place pour la suite de votre grand journal du soir. Il est 18h46.
La chronique média de Renaud Revel. Bonsoir,
bonsoir
Renaud.
Bonsoir Philippe.
On va parler d'un vieux serpent de mer, celui de la redevance télé, qui vient subitement de refaire surface avec les déclarations de Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, qui se dit favorable à sa suppression. Suppression qui creuserait un gouffre d'environ 3 milliards d'euros dans les caisses de l'audiovisuel public. Or, vous nous dites, Renaud, que ce projet est non seulement dans les tuyaux, mais qu'il risque d'avoir de lourdes conséquences.
Oui, en effet, Philippe. Trop de chaînes, trop de salariés et pas suffisamment d'économies. Cela fait des années que la citadelle de Bercy veut imposer une cure d'amaigrissement au fameux mammouth de l'audiovisuel public. Et Emmanuel Macron lui-même partage cet avis. Or, lançant l'idée de la suppression de cet impôt, approuvé par son collègue des finances Bruno Le Maire, et appuyé encore une fois par l'Élysée, Gérald Darmanin fait coup triple. Il répond d'abord favorablement aux vœux des Français, qui ne comprennent plus cet impôt face au mode de consommation de télévision qui, avec la multiplication des sources de programmes et des écrans, ont radicalement changé. Deux, il oblige le duel public et France Télévisions en particulier à engager les réformes que l'État réclame à corps et à cri depuis des années. Et trois, enfin, il taille dans le gras de l'administration des impôts. Rappelons que la collecte de la redevance, c'est 200 millions d'euros par an et 10 000 agents.
Mais alors comment l'État va-t-il compenser un manque à gagner de 3 milliards d'euros ?
Alors dans un rapport remis en octobre dernier, des parlementaires préconisaient la mise en place d'une redevance universelle dont s'acquitteraient tous les foyers français, indépendamment de la possession d'un téléviseur. Cette piste a également été balayée par Bercy au nom d'une ligne nette, pas d'impôts supplémentaires. De même qu'a été écartée, pour les mêmes raisons, l'idée d'une taxe qui serait appliquée à tous les écrans, ordinateurs, tablettes et téléphones portables. Il n'est pas question, enfin, d'une réintroduction de la pub sur les antennes de France Télé en soirée. Ça affaiblirait les chaînes privées ou celles de la TNT. Ça affecterait le marché de la radio et ça achèverait la presse écrite.
Mais alors comment ils vont faire ?
Il ne reste plus qu'une seule solution, celle d'une dotation de l'État. De combien sera cette enveloppe ? De 3 milliards d'euros, comme aujourd'hui avec la redevance, rien n'est moins sûr, car l'État veut profiter de cette réforme fiscale pour donner un coup de vis budgétaire, pour contraindre France Télé et Radio France à se serrer la ceinture et à procéder aux restructurations profondes qu'on lui réclame depuis des années.
Mais l'État avait déjà demandé à France Télévisions et Radio France, à l'audiovisuel public, 200 millions d'économies d'ici 2022.
Et en effet, ils doivent s'attendre à des années extrêmement difficiles. Et une autre question risque de se poser avec la suppression de cette redevance, celle d'une perte d'indépendance pour des chaînes publiques dont la viabilité et l'équilibre des comptes dépendront directement et dorénavant de l'État, comme au publisher de l'ex-ORTF.
Merci beaucoup Renaud Revel.
Merci Philippe.
À la semaine prochaine.
Europe 1.
Dans un instant, tout roule, la chronique auto avec Pierre de Villeneuve. Et là, pas d'économie, on va monter en gamme avec une Aston Martin.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Avant de retrouver Philippe Vandel et Pierre de Villeneuve pour sa chronique Tout roule, voici le combo électropop venu de Suisse. Kadé Bostani, propulsé sous les projecteurs en 2015 grâce au DJ The Avener. Depuis, Kadé Bostani a sorti un troisième album, Monumental, c'est son titre, sur lequel figure ce titre Mind If I Stay. Et pour décrire ce morceau, le meneur du groupe Guillaume nous dit d'imaginer une Cadillac rose roulant très vite sur des lignes droites aux États-Unis, direction Las Vegas. Alors allons-y, Kadé Bostani sur Europe 1. À l'instant sur Europe 1, Mind If I Stay, la voix de Christina, l'une des chanteuses du groupe Helvet, Kadé Bostani. Merci de nous écouter. Si vous êtes en voiture ou via l'appli Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit avec Philippe Vandel et Pierre de Villeneuve.
Tout roule, c'est la chronique auto de Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors aujourd'hui, on embarque dans la sportive de chez Aston Martin, la Vantage.
Oui, alors je dis la sportive alors que quand même au catalogue, il y a l'AMR avec 639 chevaux taillés pour circuit. Mais
oh, dis donc.
Je dis sportive car souvenez-vous, à l'automne, je vous faisais découvrir le cabriolet DB11, la volante, oui. Superbe décapotable 2+2. Alors 2+2, ça veut dire deux grandes places à l'avant et deux toutes petites places à l'arrière, qui peut tout de même se métamorphoser en bolide si vous insistez. Mais la Vantage, c'est autre chose. Dès le démarrage, on sent que ça rugit, que ça bouillonne sous ce petit capot. On a un V8 AMG de 4 litres biturbo qui développe 510 chevaux, 685 Nm de couple. C'est une donnée très importante. On nous annonce 314 km/h et 3 secondes 6 de 0 à 100. On s'installe, vue plongeante sur la route. Alors, prenons-la la route.
J'adore entendre ce feulement tranquille. On passe pas inaperçu avec ça, non ?
C'est le moins qu'on puisse dire. Pouce levé, regard curieux, la ligne, la coupe, j'ai envie de dire, au sens coupe de cheveux de cette Vantage. C'est un peu Tony and Guy, hein. C'est le look punk. Le designer Mark Reichmann a de très loin repris les codes Aston avec le dessin spécifique de la calandre. Mais la rabaisser, cette calandre, au maximum pour coller à la route, le dessin des feux arrière relève de la science-fiction. Bref, rien à voir avec la précédente version. On a voulu donner un look plus sport, plus musclé. Et sur la technique aussi, hein, le châssis, la boîte, le moteur, on est allé dans ce sens. Donc, si on titille la bête, bah elle se réveille. La pédale d'accélérateur est hyper sensible. On se retrouve plaqué au siège dans ce cockpit tout cuir avec plein de boutons partout. Cette biplace se retrouve transformée. Vous savez, c'est un peu comme dans les 101 Dalmatiens quand Cruella bousille sa voiture et la transforme en véritable dragster qui crache du feu. Attention tout de même, on a 510 chevaux sur les seules roues arrière. En mode circuit, tout se déconnecte. On n'a plus d'assistance. Plus rien ne vous remet droit dans les virages. Ça peut être très très piégeux. En tout cas, c'est de la très bonne musique avec un super look. C'est pas de tout repos. Il y a les bruits de roulement, on sent tous les revêtements. C'est quand même une voiture pour ceux qui aiment le sport automobile.
Il y a quand même un petit peu de place ou pas ?
Oui, on n'est pas dans une Lotus Elise où même le sac à main de madame a de la peine à trouver une place. On a un bel espace à l'arrière des sièges pour poser tout un tas de trucs. Un coffre, somme toute, assez
des gens,
généreux.
Peut-être.
Ouais, des gens, y a... Tiens, des gens. C'est idéal pour les week-ends à deux. Hein. Même des vacances parce qu'on peut emporter quand même pas mal de choses. Après, ce n'est pas une DB11 en plus petit. N'allez pas croire ça. C'est un vrai jouet terrible. Alors que l'autre est une vraie GT élégante et incroyablement sexy.
Je pense à tous les gens qui nous écoutent en voiture avec les enfants derrière et les petits qui se disaient « Nous, on fait quoi ?» Le prix, Pierre, le prix.
Alors, ça coûte 155 000 euros en entrée de gamme. Si on rajoute les options, vous pouvez aller très très loin. Mais quand on accède à ce genre de voiture, on a envie de dire qu'on ne regarde pas le chéquier. Quoique, certains garages vous proposent même des financements sur ce genre de produit maintenant. Des leasing.
C'est pas vrai. Crédit gratuit.
Peut-être pas gratuit quand même.
Buffet campagnard gratuit. Merci Pierre de Villeneuve. À la semaine prochaine.
Europe 1.
Dans un instant, le journal de 19h de Sophie Tussaud. A tout de suite sur Europe 1.
18h-20h,
Votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour de l'info et des infos. Début décembre, au plus fort de la crise des Gilets jaunes, Carl Olive, le maire de Poissy, avait envoyé un SMS à Emmanuel Macron pour l'alerter. Et le président lui a donné rendez-vous à l'Élysée où ils se sont parlé pendant 3 heures en toute franchise, sans filtre. 4 mois plus tard, quel est son bilan de cette crise? Macron a-t-il écouté ses conseils? Carl Olive sera avec nous à 19h15. Et puis, à propos de ce grand débat national, les réponses seront-elles à la hauteur des attentes et des violences? Et puis, le philosophe Ravel Glucksmann de Place Publique, tête de liste PS aux Européennes, tenait hier son premier meeting et il y avait un peu de flottement. Y a-t-il erreur de casting ou pas? Ce sera notre grand débat d'actu jusqu'à 20h.
Et oui, durant le débat, mais pas seulement, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1, bien sûr. 19h, merci d'avoir choisi Europe 1. Le journal, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
La cantine à 1 euro pour les enfants dont les familles ont peu de moyens. La mesure sera mise en place à la fin du mois. Ce dimanche marque le 25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Une cérémonie s'est tenue à Paris. L'épouse de Carlos Ghosn a fui le Japon parce qu'elle se sentait en danger et elle parle. Et puis la réouverture de la maison de Victor Hugo sur l'île de Guernesey où l'écrivain a passé 15 ans en exil.
Europe 1. Bientôt, la cantine à 1 euro pour les enfants des familles les plus modestes.
L'annonce a été faite ce matin dans les colonnes du JDD. Romain Noquet, vous vous êtes entretenu avec la secrétaire d'État à la Santé, Christelle Dubos. Elle vous a donné des précisions sur le dispositif qui sera mis en place à la fin du mois.
Oui, alors ce qu'on sait, c'est que cette cantine à 1 euro doit concerner les communes qui n'ont pas les moyens de mettre en place des tarifs sociaux pour leurs administrés. Impossible pour elles de proposer un repas à quelques centimes d'euros ou même gratuit. Ces communes, elles seraient environ 10 000 en France, principalement en zone rurale. Ce sont ces villages, ces villes et les familles les plus modestes qui y habitent qui sont visées par l'annonce de la secrétaire d'État.
Ces familles vont pouvoir en effet avoir un coût de repas à 1 euro de façon à ce que ces enfants puissent bénéficier d'un repas équilibré et pouvoir rester à la cantine avec leurs camarades et aux parents de pouvoir avoir du temps aussi. Souvent on voit que ce sont des familles qui sont en recherche d'emploi, qui vont avoir du temps et qui éviteront les allers-retours, je dirais, entre l'école, la maison. Et c'est donc une mesure de bon sens, de façon à pouvoir avoir de l'intégration de l'ensemble des enfants sans avoir un regard un peu discriminant en disant « tu restes pas à manger à la cantine parce que tes parents peuvent pas la payer ».
Ce dispositif se fera sur la base du volontariat. Les communes qui veulent en bénéficier devraient recevoir les modalités d'ici quelques semaines. Ce qui est sûr, c'est qu'il devra y avoir une délibération du conseil municipal ainsi qu'un formulaire à remplir. L'État s'engagera alors à apporter une aide de 2 euros par repas, sachant qu'un déjeuner à la cantine coûte en moyenne 4,50 euros. Alors cette annonce, elle ne fait pas l'unanimité du côté de la Fédération de parents FCPE. On parle même d'une mesurette. Eux veulent aller beaucoup plus loin et défendent la gratuité de la cantine pour tous.
Romain Noquet, et autres mesures pour permettre aux enfants des quartiers défavorisés d'aller à l'école et de ne pas avoir le ventre vide, les petits déjeuners gratuits seront testés dans 8 académies à compter du 17 avril et seront généralisés en septembre.
C'est demain que commence la synthèse du grand débat.
Édouard Philippe fera une restitution des apports et des contributions. Emmanuel Macron annoncera les premières décisions mi-avril, soit un peu plus d'un mois et demi avant les élections européennes. Un scrutin qui, pour Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National, pourrait être un moyen de mettre un terme à la politique d'Emmanuel Macron.
C'est évidemment un enjeu majeur pour l'Europe, à l'heure où l'Union européenne est incapable de protéger les Français et à l'heure où de plus en plus de peuples partout en Europe sont en train de se lever pour dire nous voulons être entendus, nous voulons être respectés et nous voulons récupérer le pouvoir. Maintenant, cette élection, c'est la première élection depuis l'arrivée d'En Marche à la tête du pays. Et je l'assume, je pense que ça doit être un référendum sur la politique qui est conduite par Macron. Si les Français sont satisfaits de la politique que mène Emmanuel Macron, de matraquage fiscal, d'injustice toujours plus importante à l'égard de nos compatriotes, eh bien qu'ils aillent voter pour la liste de La République En Marche. Et s'ils souhaitent une autre offre politique, s'ils souhaitent mettre fin aux injustices qui sont celles de la politique d'Emmanuel Macron, eh bien qu'ils aillent voter massivement pour la seule liste capable de lui mettre un carton rouge et d'arriver en tête, à savoir la liste du Rassemblement National.
Jordan Bardella, invité ce matin du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Beaucoup de débats et d'interrogations ces derniers temps autour de l'âge légal de départ en retraite. Dans les colonnes de Midi Libre, Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire à la réforme sur ce sujet, redit ne pas prévoir de toucher au seuil de 62 ans et pointe une polyphonie gouvernementale.
Triste anniversaire, il y a 25 ans, le début du génocide des Tutsis au Rwanda.
Au moins 800 000 personnes ont été tuées entre avril et juillet 1994 à Kigali, au Rwanda. Des cérémonies ont eu lieu aujourd'hui en présence d'un représentant personnel d'Emmanuel Macron et qui ne s'est pas rendu sur place. Emmanuel Macron qui souhaite que le 7 avril devienne une journée de commémoration. Il annonce également la mise en place d'une commission d'historiens afin de faire la lumière sur le rôle de la France dans cette tragédie. Et en France, à Paris, une cérémonie s'est tenue cet après-midi au parc de Choisy, en présence de Bruno Le Maire et de la chanteuse Barbara Hendricks, mais également de rescapés comme Alain. Il avait 15 ans lorsque plusieurs membres de sa famille ont été massacrés sous ses yeux. Il regrette qu'Emmanuel Macron ne se soit pas rendu à Kigali aujourd'hui.
C'était une occasion pour le président de la République de se rendre au Rwanda, justement, de marquer une rupture net avec ses prédécesseurs, puisqu'il a été invité par le Rwanda par ailleurs officiellement. Il n'y est pas allé, et Macron, qui par ailleurs n'est pas lié à la polémique de l'implication de la France aux côtés du régime génocidaire, parce que lui était adolescent au moment des faits. Et donc je pense que vraiment il a raté une très bonne occasion pour marquer la rupture. En même temps, tout n'est pas néant, parce que je pense que c'est le premier président à poser autant de gestes, qui restent par ailleurs des petits pas quand même, mais qui donnent espoir. Il vient de déclarer la journée du 7 avril, la journée nationale du souvenir du génocide des Tutsis. C'est quand même significatif. Donc oui, il y a des avancées, mais des petites avancées, il faut aller au-delà.
Alain Rescapé du génocide rwandais au micro européen de Victor Dolande.
Les révélations de l'épouse de Carlos Ghosn, elle a fui le Japon, et la réouverture de la maison de Victor Hugo sur l'île de Guernesey, c'est à suivre dans un instant.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 19h07, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
L'épouse de Carlos Ghosn se sentait en danger, alors elle a quitté le Japon.
Oui, Carole Ghosn est rentrée à Paris juste après la nouvelle arrestation de son mari jeudi. Elle se confie au journal du dimanche dans une interview. Elle s'en prend à la police et à la justice japonaise, mais elle égratigne également l'attitude de la France, Anne-Laure Jumet.
Oui, Carole Ghosn se dit choquée par les réactions en France. « Tout le monde a laissé tomber mon mari par lâcheté, y compris les patrons. Ça me dégoûte », dit-elle. Quant à Emmanuel Macron, il a certes répondu à sa lettre du mois de janvier, lui disant qu'il faisait tout son possible. Mais depuis, c'est silence radio du côté de l'Élysée, déplore-t-elle. Dans cette interview, Carole Ghosn raconte aussi l'arrestation humiliante subie par son mari. À l'aube, une vingtaine de personnes débarquant dans les deux pièces qu'ils occupaient depuis sa libération sous caution. Il voulait prendre avec lui un livre ou du chocolat. Refus de la police, expliquant qu'on était au Japon, que la loi était faite comme ça. Une arrestation qui n'a en tout cas pour Carole Ghosn qu'une explication. Faire taire son mari avant la conférence de presse, initialement prévue dans quelques jours. Mais l'ex-patron de Renault-Nissan fera quand même entendre sa vérité dans une vidéo en anglais réalisée avant son arrestation. Elle sera diffusée bientôt, assure Carole Ghosn, qui ajoute « Il avait envie de désigner les responsables de ce qui lui arrive ».
Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1.
À présent, on prend la mer et on rejoint la maison de l'exil de Victor Hugo durant 15 ans.
Hauteville House sur l'île anglo-normande de Guernesey. Après un an de travaux, la bâtisse a rouvert ses portes au public aujourd'hui. Une maison que l'écrivain a marquée de son empreinte, Diane Chinouda.
C'est là, dans cette grande maison de pierre face à la mer, que Victor Hugo écrit La Légende des siècles et termine Les Misérables. Puis il fait construire une verrière au sommet de la maison, ouverte sur le ciel et l'océan. Là, il va notamment écrire Les Travailleurs de la mer. Marie Hugo est l'arrière-arrière-petite-fille de l'écrivain.
Victor Hugo écrivait là, sur cette petite table, face à la mer. Et les jours de beau temps, il voyait la France. Et il écrivait debout. J'imagine qu'on a plus d'énergie quand on est debout qu'assis. Et les feuilles, il les posait sur ces bancs-là pour que l'encre sèche.
Des bancs recouverts de tapis persans, car ce qu'on découvre ici, c'est aussi le génie de Victor Hugo, décorateur. Chaque pièce est une création de l'artiste, comme en témoigne Gérard Audinet, le directeur de la maison de Victor Hugo à Guernesey.
Il n'y a plus un centimètre carré de libre qui n'est pas fait par Victor Hugo. Ça procède par assemblage, collage de boiseries, de tapisseries, de carreaux de delves, de soieries, de miroirs. Dans chaque pièce, il nous raconte une histoire un peu différente. Il varie les matériaux. Et à chaque fois, donc, on est dans un univers complet recréé par Victor Hugo.
Tout a été restauré à l'identique grâce aux photos anciennes et à la lecture des carnets et agendas de Victor Hugo.
Diane Chénouda. Et puis un mot pour vous dire qu'il est toujours temps de donner pour le site d'action. Vous pouvez appeler le 110 à la L'appel est gratuit. Depuis vendredi, plus de 4 070 000 euros ont été récoltés.
Et c'était le journal de Sophie Tussaud. Merci beaucoup Sophie.
Vous êtes bien sur Europe 1, il est 19h10.
La météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Demain, pas d'évolution côté température, mais c'est mieux côté ciel.
Léger mieux effectivement pour la couleur du temps et des températures du même ordre que ce dimanche. Le matin, il fera donc entre 4 et 8 degrés en moyenne, avec localement quelques gelées blanches dans les vallées d'Auvergne. Dans l'après-midi, les maximales afficheront 13 degrés sur le Finistère et le Jura, 14 à 18 ailleurs, avec des pointes à 20 degrés près de la Méditerranée. On se situera dans les moyennes de saison. Côté ciel, temps variable, alternant éclaircies et averses, parfois orageuses. Dans le détail, ça nous donne pour ce lundi beaucoup de nuages bas, donc tapis nuageux épais, sur la façade ouest de la France. Nuages épais et ondés cette fois, même tendance à l'orage sur la partie est, entre les Ardennes et l'Alsace. Et puis entre les deux, belle alternance de nuages et d'éclaircies et un temps sec.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec vous, Simon Rubin. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Et du football pour commencer, dès ce soir, on est seulement début avril, le PSG peut déjà être sacré champion de France.
Eh oui, Lille n'a pu faire mieux qu'un match nul à Reims, un partout cet après-midi, et laisse donc le champ libre aux Parisiens. À domicile, le PSG peut donc dès ce soir, à 8 matchs de la fin, être sacré champion de France. Une joie, évidemment, pour le Parisien Marco Verratti. Alors ça a l'air facile comme ça, mais pour en arriver là, il a fallu faire beaucoup d'efforts, rappelle-t-il.
On fait vraiment un très grand travail dans les 30 matchs qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a perdu un match, si je ne rate pas. Ça, c'est une chose magnifique parce que ce sont des matchs où on joue contre des grands joueurs, des grandes équipes. Peut-être à l'extérieur, c'est facile, mais pour nous, on sait les forces qu'on fait dans la semaine. On sait que ce n'est jamais facile, surtout quand on joue à l'extérieur, de gagner des matchs, de prendre des poids. Et on est vraiment heureux de pouvoir gagner dimanche.
Marco Verratti au micro de Julien Froment. Paris en 4 titres hein, ce soir, qui battra son propre record de vitesse pour être sacré champion de Ligue 1, avec au passage un record de buts marqués. Alors dans les autres matchs, loin de tout ça, loin du PSG, Toulouse a battu Nantes 1-0. Victoire de Nice sur le même score sur Montpellier. Et puis PSG Strasbourg, hein, ce soir le match peut-être du titre. C'est évidemment à suivre dans Europe 1 Sport avec Lionel Rossi.
Non mais attendez, même s'ils ne mettent plus un but d'ici la fin de la saison, ils battent quand même leur record.
C'est bon, ils sont partout, ils sont premiers partout.
Oh là, c'est monstrueux. En rugby, on approche de la fin du top 14. On jouait la 21e journée et on a assisté, me dites-vous, à l'un des plus beaux matchs de la saison entre Clermont et le Racing.
Oui, d'abord parce que c'était un match avec de l'enjeu. Hein. Les places sont chères pour jouer les barrages et potentiellement les demi-finales du championnat de France. Surtout pour le Racing qui était 6e avant son déplacement à Clermont ce soir. Et au final, match spectaculaire, beaucoup d'essais marqués, dominé par les Auvergnats, mais qui ont craqué sur la fin et concèdent le match nul 31-31. Damien Tardieu, au terme d'un scénario fou.
Oui, c'est clair, totalement fou et sans doute une fin de match difficile à vivre, notamment pour les supporters anxieux ou émotifs des deux équipes. Je vous refais le scénario. Clermont était devant depuis la 15e minute grâce à 4 essais en 30 minutes en première mi-temps. Les Auvergnats dominateurs, réalistes, qui menaient bien leur barque, mais c'était sans compter sur l'orgueil d'un Racing peut-être un peu blessé depuis son élimination en Coupe d'Europe la semaine dernière. Jamais totalement lâché au tableau d'affichage, eh bien les Franciliens grignotaient leur retard. 31 partout finalement à 3 minutes de la fin et même la pénalité de la gagne à la 80e pour Maxime Machenot. Le demi de mêlée du Racing l'a raté cette pénalité, match nul donc 31 partout et au vu du scénario peut-être que chacun finalement s'en contentera.
Damien Tardieu et puis toujours en rugby, hein, c'est demain que le conseil des prud'hommes, alors on est loin des terrains bien sûr, mais doit trancher dans le litige qui oppose l'ancien manager des Bleus Guy Noves à la Fédération Française. Un Noves licencié pour faute grave conteste la procédure et réclame près de 3 millions d'euros de dommages.
Et on termine avec du vélo.
C'était le Tour des Flandres, grande course prestigieuse hein, des classiques ardennaises et une belle surprise avec la victoire de l'Italien Alberto Bettiol de l'équipe Education First. C'est son premier succès professionnel.
Et c'était le journal des sports de Simon Rubin. Merci beaucoup Simon.
Europe 1.
Au tout début de la crise des Gilets jaunes, une poignée de maires avait été reçue par Emmanuel Macron et ils avaient fait tourner la machine à baf. Ont-ils le sentiment aujourd'hui d'avoir été entendus? À la veille de la restitution du grand débat, le maire de Poissy, Carl Olive, était de cette réunion. Il nous dira ce qu'il en pense dans un instant.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec Philippe Vandel, c'est votre grand journal du soir et à 19h16, pardon, on va parler politique, Philippe.
Oui, à l'horloge dans le studio, il suffisait de lire. Bonsoir Carl Olive.
Bonsoir Monsieur Vandel.
Vous êtes maire de Poissy, une ville moyenne proche de la proche banlieue de Paris, vous co-présentez présider une association Génération Terrain dans laquelle se retrouvent des élus des Yvelines, toutes tendances confondues, c'est important. Début décembre, c'était juste après l'acte 3 des Gilets jaunes. Vous aviez envoyé un SMS au président Macron pour l'alerter. Il vous a donné rendez-vous à l'Élysée où, avec d'autres, vous lui avez parlé pendant 3 heures en toute franchise, sans filtre. Vous lui expliquiez qu'il était mal aimé, pourquoi, comment, qu'il faisait une fausse route dans sa communication, mais pas seulement. Vous lui demandiez d'écouter davantage les élus de terrain. 4 mois plus tard, avez-vous l'impression d'avoir été entendu ?
Alors Philippe Bandel, la première chose qu'on a dit au président, c'est quand est-ce que vous allez vous décider à être en prise directe avec celles et ceux qui sont sur la réalité du quotidien et qui font de la démocratie de proximité leur ADN, c'est-à-dire les maires. Et on a demandé au président de venir voir les maires. Force est de constater, c'est ce qu'il a fait. Depuis maintenant 3 mois, il fait son tour de France. C'est presque un tour de France de l'apprentissage de ce qui se passe dans les collectivités. Je ne suis pas sûr que ce fût à lui d'y aller, mais enfin, il s'y est collé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on lui a dit, c'est que en France, les Français ne croient que finalement en personnalité que sont les maires aujourd'hui, alors qu'ils mettent en place des pactes de confiance avec les maires. J'ose espérer que dans la semaine, on aura le sens de ces contributions qui viendra de façon concrète donner une réponse à cette grande question que nous l'avons posée.
Et ben justement, puisque vous en parlez, qu'attendez-vous des annonces qui vont être faites demain, les premiers retours du grand débat national par Édouard Philippe au Grand Palais ?
Bon, d'abord, Philippe, il faut dire une chose. Que souhaitent les Français ? Un, les Français souhaitent qu'on arrête de les emmerder. Deux, les Français souhaitent vivre de leur travail. Les Gilets jaunes, c'est quoi ? Les Gilets jaunes, ce sont des mamans, qu'on n'avait jamais vues d'ailleurs dans les manifestations. Ce sont des retraités. Donc, il faut du pouvoir d'achat. Le frigo de la France, il est vide. Mais il faut du pouvoir d'achat. La première chose, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Ça, c'est du pouvoir d'achat. Et peut-être plus rapidement que ce n'a été annoncé. Il faut du lourd, de toute façon, dans les réponses par rapport aux gilets jaunes et toutes celles et ceux qui ne portent pas le gilet jaune. La deuxième chose, c'est effectivement pour ce frigo qui est vide, le remplir un peu, c'est quoi ? Bah, peut-être que la suppression de la TVA sur des produits de première nécessité peut correspondre, comme le dit Xavier Bertrand, à peut-être 20 euros par mois. C'est pas rien, 20 euros par mois. Et puis enfin, troisièmement, pour les retraités, tout de suite réindexer le coût de la vie sur les pensions de retraite, parce que ça, c'est une véritable injustice. Sinon, et j'en terminerai là, ben sinon les prochains gilets jaunes, ce sont les retraités.
Clap de fin pour le grand débat national, on l'a dit, qu'après 80 jours, près de 2 millions de contributions déposées en ligne, plus de 10 000 réunions locales, 16 000 cahiers citoyens. Quel bilan vous en tirez ? Est-ce que vous-même, vous avez organisé des réunions dans votre mairie ?
Oui, on a organisé 4 réunions, obtenu 2500 contributions par ailleurs, avec des visages nouveaux et surtout des Français qui ne se trompaient pas de combat.
J'allais vous demander, qui sont les gens qui sont venus ?
Eh bien, les Français en général, le calque de notre beau pays, et y compris d'ailleurs des gens qui n'ont pas l'habitude de venir dans nos réunions publiques. C'est là où je dis que les Français ne se trompent pas de combat. Sur l'ensemble des contributions, les 2500 contributions de Génération Terrain, merci d'avoir rappelé l'existence de cette association, Philippe Vandel, il y a 2490 contributions qui concernent bien l'exercice de la France, ouais. Et pas celui du local.
Oui, mais en même temps, on a regretté qu'il y ait très peu de gilets jaunes dans les réunions, et surtout des retraités, d'où toutes les questions liées à la réforme des retraites et de la CSG. C'est ce que vous avez constaté vous-même ?
Non, Philippe, on ne peut pas dire ça. Tout simplement parce que les gilets jaunes, je le disais sur votre antenne, ont obtenu quasiment en 3 semaines ce que les syndicats n'ont pas obtenu en 30 ans. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que les Français, il faut qu'ils arrêtent un tout petit peu de râler, d'être un tout petit peu plus obéissants, et puis faire en sorte que ce soit équilibré. Et on le respecte, et on le respecte.
Est-ce que les gens pouvaient aborder tous les sujets ?
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, j'avais dit au président de la République qu'il fallait surtout pas s'exonérer de thèmes comme la santé, qu'on ne retrouvait pas dans les 4 premiers thèmes, comme l'éducation, qu'on ne retrouvait pas dans les 4 premiers thèmes, et y compris la sécurité. C'est ce qui s'est passé.
Alors, je vais vous faire entendre un participant à une réunion. Il n'était pas à Poissy, ça se passait dans l'Oise. Il s'appelle Thibault, et il raconte sa frustration au micro de notre journaliste Théo Manval. Il était à une réunion.
Je suis allé à des réunions à côté de chez moi, mais bon, il y a 4 thèmes imposés. J'ai voulu prendre la parole, parler de sujets qui étaient différents. Ben non, on m'a dit non, on reste dans les 4 thèmes. Puis on vous explique que c'est soit on augmente les impôts et on vous donne plus de services publics, donc c'est soit la peste ou le choléra. Franchement, non, j'y crois pas.
Il a raison, Thibault. Je pense que c'est une connerie de lui avoir répondu qu'on ne pouvait pas intervenir sur l'ensemble des sujets. Ça n'a pas été le cas dans nos collectivités, d'ailleurs à Poissy comme ailleurs. J'avais dit au président de la République qu'il fallait que ce soit un exutoire, un défouloir. Les Français veulent être entendus, mince. Ouais. Ben, ils ont été entendus. Maintenant, il faut une réponse forte, justement, à cette distribution de parole.
Puisque vous parlez du président de la République, vous êtes reparlé depuis ?
Oui.
Quand ?
Encore la semaine dernière, par SMS interposé, où je lui ai dit que, à côté de cette injustice manifeste que l'on rencontre, il faut absolument une réponse ferme et une réponse qui puisse aller au plus grand nombre. C'est pour ça que je dis que demain, pour le pouvoir d'achat, il faut une réponse qui soit une réponse très forte.
Il vous a dit oui, d'accord, ou il vous a dit tu sais, c'est compliqué ?
On sait que c'est compliqué, mais c'est pas compliqué depuis hier, c'est compliqué depuis.
Non, mais la question était, qu'est-ce qu'il vous a répondu ?
Il m'a répondu que, effectivement, il serait très attentif à la fois remontée de terrain. Je lui ai dit, je l'espère, parce que sinon on aura fait de la figuration une nouvelle fois, et faire de la figuration, on en a marre parfois d'être cocu.
Alors, les Français ont eu plein de demandes sur différents thèmes. Ce qui surnage, c'est la baisse des impôts, mais ça vous attendiez. En ce qui concerne le rapport des citoyens et des élus, il y a deux idées qui surnagent. D'abord, avoir plus souvent recours à des référendums locaux. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Je pense que dans certains cas, je vais vous donner un exemple. Le mur de ma prison s'est effondré la semaine dernière, une partie du mur de la prison, depuis deux ans
de Poissy. Rassurez les gens.
Oui,
le mur de la prison, les gens sont partis comme dans Mickey et les Raptou.
Non, pas tout à fait, pas comme un Raptou. Mais on est passé malheureusement à deux doigts d'un drame. Depuis deux ans, je dis à la chancellerie, venez nous voir. La prison qui date de 1821 est dans un état pitoyable. Et on me répond qu'il n'y a pas de budget. Bon, bah, je pense qu'un pacte de confiance avec les collectivités locales fait qu'on pourrait peut-être prendre en charge effectivement le financement, et depuis deux ans, ça serait frais.
Pardon, Carl Olive, mais quel rapport avec un référendum ?
Mais peut-être.
Il n'y a pas besoin de référendum pour voir qu'il faut que la prison soit en bon état.
Alors, quand le maire dit à la chancellerie, il faut changer, il faut déplacer la prison, que les syndicats disent les conditions de travail sont pitoyables, peut-être qu'il faudra un référendum pour enfoncer une porte ouverte. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me titille.
Autre idée qui a éclos, réduire le nombre d'élus, les députés, surtout les sénateurs. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Non, mais là, il y a un petit peu de flûte de pan, là, Philippe Vandel, dans ce qu'on dit, parce qu'on le voyait, sur 1 000 euros dépensés, la dépense pour les élus, c'est en général 1 euro. En revanche, de façon pragmatique, pourquoi pas fusionner le conseiller départemental et le conseiller régional ? Oui, ça baisserait le nombre d'élus. Pourquoi pas diminuer de 100 élus le nombre de députés ? Oui, ça permettrait de baisser la dépense publique. Je vous rappelle quand même que la dépense publique en France, on est sur une trajectoire de 2 400 milliards et qu'il y a bien d'autres choses à faire en amont, en termes d'exemplarité, par exemple, pour ne citer que cet exemple.
Vous qui êtes un élu local, pardon, très sensible à ces questions, il y a des solutions proposées pour réduire le millefeuille administratif, la suppression des départements. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Absolument pas. Absolument pas, parce que les Français veulent être entendus, écoutés par rapport à ce qu'ils font.
Mais c'est ce qui sort du grand débat, c'est ce qui sort des...
Non, c'est pas ce qui sort du grand débat.
C'est une étude de France 2,
oui.
Et de la séquence d'enquête dont le nom m'échappe à l'instant.
Alors moi, je vous dis qu'il n'y aura pas de suppression. Il n'y aura pas de suppression du conseil départemental, parce que c'est pour le coup, c'est une couche qui est en prise directe avec la réalité du terrain. En revanche, ce que je disais tout à l'heure, la création, le retour à un conseiller territorial qui permettrait de fusionner les deux, ça c'est autre chose.
Puisque vous parlez de fusion, les Français, enfin les contributions aux Gilets jaunes, il y en a eu 2 millions, il y en a eu beaucoup qui n'ont pas répondu. Hein. Plus grand recours à la fusion de communes. Alors là, en tant que maire de Poissy, est-ce que vous êtes favorable ? Pas forcément pour votre commune, mais d'une manière générale sur le pays.
Philippe, c'est le sens de l'histoire. Depuis 2014, à Poissy, on a réalisé 5 millions d'euros d'économies de fonctionnement, ce qui me permet de ne pas augmenter la pression fiscale. Pour autant, les recettes continuent de baisser et les dépenses sont à peu près au plancher. En 2021-2022, on sera près du mur. Si à Poissy, on est près du mur, pardon d'être immodeste, mais il y a d'autres communes qui sont déjà dans le mur. Le sens de l'histoire, c'est effectivement la création de grandes communes, et on y viendra peut-être. Et je pense qu'on y viendra peut-être un peu plus rapidement.
Même pour une ville comme la vôtre, moi je croyais, pardon, que c'était pour les petits villages ruraux qui avaient très très peu de moyens.
Non, on est exactement dans la même chose, puisque de toute façon, nous, malgré nos 5 millions d'économies de fonctionnement, j'ai toujours une enveloppe de l'État qui continue de baisser, et je suis au plafond de mon impôt sur la solidarité. Donc il n'y a pas de prime, il n'y a pas de contrat gagnant-gagnant. Moi, j'appelle le président de la République et le Premier ministre à faire des contrats gagnant-gagnant.
En partie à cause de la perte de pouvoir liée à l'intercommunalité, c'est ainsi qu'ils le disent, près d'un maire sur deux n'a pas l'intention de se représenter en 2020. Ce n'est pas votre cas, vous allez vous représenter.
Oui, je vais me représenter parce qu'on est des compétiteurs, il faut se battre, et moi je veux être acteur de ma ville et pas spectateur de celle des autres.
Vous avez eu 50 ans la semaine dernière. Pour votre anniversaire, il y a eu un film où étaient présents Gérard Larcher, Xavier Bertrand, Michel Platini, mais surtout Kylian Mbappé, qui vous souhaite un bon anniversaire. C'est un copain à vous ?
Bah, c'est des gens qu'on rencontre quand on a été journaliste sportif, Philippe. Puis vous savez, aimer les gens, ça ne s'apprend pas dans le dictionnaire. Hein.
Oui, mais moi, quand j'étais journaliste sportif, Mbappé, il était à la maternelle. La question que tout le monde se pose...
Je crois qu'il n'était même pas né.
Mais, évidemment, mais je n'osais pas le dire. La question qu'on a presque le même âge, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il va rester au PSG? Ça sera ma dernière question.
Oui, je pense qu'il va rester au Paris Saint-Germain. Et mon petit doigt me dit que dans un peu plus de deux heures, le PSG sera champion de France. Et puis, j'irai faire la fête certainement avec eux.
Merci beaucoup, Carl Olive, maire de Poissy. Je le rappelle, à la tête de l'association Génération Terrain. À suivre, une demi-heure de débat. Le grand débat a-t-il été à la hauteur de la crise et comment en sortir? Le jeune philosophe Raphaël Glucksmann de Place Publique va donc conduire la liste PS aux européennes. C'est un autre sujet. Il tenait hier son premier meeting à Toulouse et tout ne semble pas encore au point. Et si ce choix était ce qu'on appelle une fausse bonne idée? Notre grand débat d'actu, c'est jusqu'à 20h dans un instant.
Votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1. Philippe Vandel, c'est l'heure de notre grand débat d'actu.
Oui, avec Jannick Halimi. Bonsoir Jannick.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Razia Madi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur du News Tank City, c'est un think tank, ancien porte-parole député du PS. Et Alexandre Kouchner, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes co-rédacteur chef de la revue Européen, revue qui dit bien son nom, tout est dans le titre, vous êtes favorable à l'Europe. Clap de fin pour le grand débat national, 80 jours, près de 2 millions de contributions déposées en ligne, plus de 10 000 réunions locales, 16 000 cahiers citoyens. Quand c'est fini, ça recommence. Demain, la synthèse sera présentée au Grand Palais par le Premier ministre et les 5 garants de l'exercice. Vous qui êtes très informé, qu'en attendez-vous, Jannick Halimi?
Je sais effectivement ce que j'en attends. Ouais. Je ne sais pas ce que nous prépare le gouvernement.
Vous avez des confidences, vous avez quand même un petit peu ce qui va se dire demain.
Écoutez, à demain, pas grand-chose. Ça, je peux vous dire que pas grand-chose. Ce n'est pas du tout prévu que Édouard Philippe parle sur le fond avant le président de la République, qui reste jupitérien malgré la claque qu'il a reçue avec les Gilets jaunes. En revanche, il va probablement détailler le calendrier. Ce qu'on sait déjà, hein, mais le calendrier des jours à venir, avec la présentation devant l'Assemblée nationale, puis le Sénat, puis le rapport des garants, vous savez, qui devait contrôler le bon déroulement de ce débat, vraisemblablement vers le 8 ou 9 avril. Et après, à la mi-avril, autour de 13-14 avril, mais il n'y a pas de date précise, le président de la République, là, lèvera le voile sur l'arche sainte, n'est-ce pas, et on verra ce qu'il en sortira. Mais à part tout ce qui se dit ici et là, dont certaines choses partent dans tous les sens, je n'en sais rien de plus et ce serait mentir à vos auditeurs que de dire que j'en savais un peu plus que les autres.
Alors moi j'ai une info, c'est que le lieu on le connaît, c'est le Grand Palais et le choix du lieu fait déjà polémique, trop parisien, trop luxueux. Qu'en dites-vous, Razia Madi?
C'est justement peut-être un premier niveau de réponse, c'est-à-dire être sur le pratico-concret en termes de propositions et de réponses. Et on a tendance à oublier que cette crise des Gilets jaunes, elle a commencé par la question de l'énergie. L'énergie qui coûtait trop cher.
La taxe sur le diesel, ça a commencé comme ça. Et qu'est-ce que vous faites de notre pognon? La fameuse vidéo de Jacqueline Gourault.
Qu'a-t-on là, à la suite du débat, ou en cours du débat, comme proposition concrète sur ce dispositif? Et pas que l'énergie, il y a pire. Gaz, électricité, où on sait que structurellement, dans les années à venir, on a une augmentation exponentielle des prix qui est programmée. Bon, là, pour le moment, c'est bizarre, mais le point de départ concret du mouvement ne donne pas lieu à des propositions concrètes. Or, par exemple, cette semaine, j'ai eu l'occasion de visiter une pépite extraordinaire
Attendez, Razia Madi, vous savez que ma question, c'était sur le choix du lieu. Où est-ce que vous voulez en venir? Je voulais savoir si c'était une bonne idée.
Il a fait de la politique auparavant.
Non, mais le gars, il est parti dans 8 minutes où il raconte sa semaine.
Non, je veux en venir au fait que, justement, peut-être, Édouard Philippe et le gouvernement doivent faire le contraire de ce que vous venez de faire.
C'est-à-dire
que les dorures de la République, le palais, le Grand Palais, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est restons concrets. Et donc, je voulais dire, une pépite que j'ai rencontrée cette semaine, vous ne me ferez pas dévier de mon objectif, qui est une entreprise qui s'appelle Enerlys, qui aujourd'hui.
Oui, mais c'est que leur tourne, il est bientôt 21h.
Oui. Qui dit aujourd'hui, plutôt que de taxer les plus pauvres, donnons vraiment une vraie stratégie nationale sur cette question de l'économie d'énergie et des énergies renouvelables. Deuxième chose, enfin et pour finir, à un autre niveau, on a pu dire. Je pensais à cette phrase de Thiers en préparant l'émission.
Adolphe.
Voilà, qui disait finalement, avant les grands bouleversements qu'a connu la France et la fin du règne de Napoléon III, il n'y a aucune erreur à faire. Et finalement, toutes furent commises. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à la sortie du grand débat, au regard de ce qui se passe, de la journée d'hier, il n'y a aucune erreur à faire.
Mais toute la question, c'est surtout qu'est-ce qu'on attend de ce grand débat? On peut se dire, est-ce qu'il fallait aller au Grand Palais? Est-ce qu'il fallait ailleurs? La vraie question, c'est qu'il y a une crise majeure, profonde, des attentes multiples,
complexe, très difficile à orchestrer, et on voudrait nous faire croire que dès demain, déjà, on pourrait faire des annonces ou même ne pas en faire d'ici deux semaines. Mais je crois qu'on mesure mal l'engouement qu'a suscité un peu ces débats. On pourra se demander s'il était représentatif, on pourra se demander
J'allais vous le demander, tiens, c'est bon sujet que vous soulevez là.
Laissez-moi juste finir sur l'enjeu. Souvenons-nous quand même qu'il y a 10 450 débats publics qui ont été organisés, il y a plus d'1,5 million participants. Demain, il ne pourra rien dire, ce n'est pas possible.
Ah, mais ce n'est pas prévu.
Ce n'est pas prévu, mais tant mieux. La question maintenant, c'est est-ce qu'on se laisse le temps de la réflexion ? On a découvert pendant 2 mois que la politique était l'affaire de tous, qu'on devait continuer à la faire partout, qu'on devait continuer à la faire ensemble. Il serait peut-être temps, plutôt que se demander si demain, sous les dorures du Grand Palais, on avait l'occasion enfin de régler les problèmes de la France depuis les 30 dernières années, plutôt de se demander que fait-on de cet appétit nouveau, renouvelé des gens pour la chose publique.
Avant, alors juste un mot, avant qu'on parle du fond, vous avez cité le mot engouement, 2 millions de contributions, c'est énorme. Et quand on voit que le collège électoral en France a en gros 45 millions de votants, ça indique que 43 millions de votants de Français sont passés à côté.
Moi, je me refuse, pardon, à entrer dans ce genre de considération, parce qu'on peut faire pareil avec les élections, ce soit à l'Assemblée nationale ou que ce soit au sein des entreprises avec les organisations syndicales. Franchement, projetons-nous à il y a 3 mois maintenant, qui pariait un copec sur cette histoire sortie de nulle part qui s'appelait le grand débat.
Alors maintenant, le fond, il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale. Mais alors justement, de quoi vont-ils débattre ? Un débat sans vote ?
Non mais, il y a eu déjà un débat pendant 2 jours où finalement les différents parlementaires, quelle que soit leur sensibilité, ont dit on comprend pas trop ce qu'on fait là en fait. On peut pas demander à des parlementaires de faire la même chose que ce que font des citoyens quand les parlementaires ont pour mission de débattre tout le temps. Eux.
Oui.
Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, regardez l'histoire des primaires. À chaque fois, que ça soit à gauche ou à droite, on dit voilà, c'est ce que ça va marcher. Les citoyennes et les citoyens, les Françaises et les Français, à partir du moment où vous donnez un espace de participation supplémentaire, c'est bon, c'est acquis, ils y vont, ils participent. Bon, mais ça provoque une exigence. Il y a le droit de débattre, mais il y a le devoir d'entendre ce qui s'est dit. Et là, il y a une grande difficulté. Parce que la synthèse, c'est un peu comme Raymond Barre dans les années 80, qui, lorsqu'on lui disait « tous les économistes sont d'accord sur ce point », il disait « ah, vous savez, les économistes, chacun a les siens ». Bon, ben les synthèses, chacun peut faire la sienne. Parce que vous pouvez faire une synthèse qui va être « oui, donc le problème de l'immigration, les frontières, etc. » Et vous pouvez faire une synthèse aussi en disant « voilà, le contrat social aujourd'hui français ne tient plus, il faut le renouveler, et on le renouvelle comment ? Ou avec de la régression ?» ou avec des idées progressistes. Donc toutes les synthèses sont possibles, parce que tous les avis, y compris contradictoires, comme vous le disiez précédemment, M. Kouchner, sont dans le débat.
Alexandre Kouchner et puis Jannick Halimi.
La question, à mon sens, c'est pas vraiment est-ce que les parlementaires peuvent faire comme tous les citoyens. C'est que là, tous les citoyens ont pu faire comme les parlementaires. Et là, il s'est passé quelque chose qui est très intéressant, c'est que, effectivement...
On leur a fait croire que...
Je ne sais pas si on doit aller dans ce cynisme-là. Je pense en tout cas qu'il y a toujours une crise politique majeure qui mettait énormément de nos concitoyens dans la rue et qu'est arrivée cet ovni, cette proposition à laquelle personne ne croyait, qui en tout cas, je ne sais pas si elle a pu réellement désamorcer le conflit, en tout cas, coïncidemment, il y a un peu moins de monde dans les rues, il y a plus de débats. Donc d'une certaine manière, il y a une première victoire, elle est peut-être que symbolique.
Oui.
Mais en tout cas, il y a un moment où on s'est tous mis à refaire de la politique. Et ça, c'est très important. Est-ce que c'est la solution à tous nos problèmes ? C'est impossible. Les problèmes sont trop nombreux, ils sont trop complexes, la synthèse va être très difficile. Mais au moins maintenant, on peut se dire qu'à un moment, on s'est parlé, on s'est peut-être écouté. La question, c'est est-ce qu'on s'est entendu ?
Jannick Halimi.
Oui, enfin moi je suis assez d'accord avec Alexandre Kouchner. Effectivement, l'intelligence de je veux pas trop en faire par rapport à l'exécutif, mais enfin tout de même, souvenez-vous dans quelle je suis d'accord, mais dans quelle ornière était la France il y a encore trois ou quatre mois, le fait de sortir par le haut, par la politique, en donnant la parole de cette façon entre guillemets presque anarchique, entre guillemets, ce n'est pas le cas, les débats étaient contrôlés, encadrés, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant. Il n'empêche que de tout ça peut sortir le pire également, c'est-à-dire que si le gouvernement était complètement à côté de de la plate, soit dans les décisions graves qu'il prenait, mais complètement à côté de ce que peut suggérer l'opinion publique, aussi contradictoire soit-elle. Soit que, n'oublions pas Alexandre Kouchner, que au-delà du fait que la politique dans un bel ensemble pouvait donner une sorte de souffle à ce début de sortie de crise, il y a aussi des violences. Il y a aussi une France qui a montré énormément de violences et de fissures, voire de fractures. Donc la messe n'est pas dite, la messe n'est pas dite. Mais si je peux terminer juste sur ce que pourrait très rapidement, quand même, les éléments sur lesquels pourrait se raccrocher le gouvernement, parce que lui, gouvernement, je ne dis pas que c'est la vérité et que c'est les solutions, c'est qu'il a quand même quelques règles. Allez, monsieur Macron dit que sa légitimité vient de son élection d'il y a 2 ans. Donc 2 ans, c'est court et c'est long, mais pour lui, c'est court. Sa légitimité, il la tient de son programme. Donc il va se raccrocher, un, à son programme, et deux, à ce qui fait quand même la structure même de son élection, l'Europe. Et quand on se raccroche à l'Europe, bien évidemment, il y a un tas de contraintes et de lignes directrices qui vont continuer à dicter, je pense, la sortie du débat. Voilà ce qui pourrait aider à la synthèse.
En résumé,
on marque une pause. Le débat sur le débat, et Dieu sait qu'ils veulent prendre la parole, et Dieu sait que ça me ravit, c'est tout de suite après ça.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
19h39, la suite de notre grand débat d'actu sur Europe 1. C'est avec vous, Philippe Vandel, et vos invités. Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Razi Hamadi, fondateur de News Tank Cities. Et Alexandre Kouchner, co-rédacteur en chef de la revue Européen.
On a marqué une courte pause pour retrouver nos esprits et la parole était à Razi Hamadi.
Je disais, en résumé, si l'exercice du grand débat est réussi par rapport à la situation de décembre. Décembre, le pouvoir exécutif avait peur. Je le dis.
Bien sûr, moi je me souviens de la visite de Macron.
Bien sûr.
Il y avait une peur au Puy-en-Velay. Physique.
Au Puy-en-Velay et place Charles de Gaulle, place de l'Étoile.
Aussi,
les dégradations.
Y compris, voilà, sentiment que le pays peut connaître dans son histoire. C'est-à-dire sentiment qu'on est période charnière, mouvement de bascule qui peut se provoquer. Et puis, il y a eu certaines irresponsabilités parce qu'on avait quand même l'unanimité de l'opposition. Enfin bref, tout ce qui n'était pas, entre guillemets, en marche, qui était dans les expression d'une solidarité sans savoir de quoi il s'agissait réellement. Ce qui, je pense...
Plus ou moins explicite.
Oui. En tout état de cause, est-ce que, parce qu'il est réussi, le gouvernement a gagné du sursis? Ou est-ce que, parce qu'il est réussi, ce débat, on va arriver au sursaut?
Vous savez quoi? C'est le genre de question que je pourrais poser. Ce qui m'intéresserait, c'est votre réponse.
Tiens. Les deux ne sont pas incompatibles. Hein.
Absolument. Et surtout... On en revient à qu'est-ce qui fait ce débat réussi. Ce débat a eu lieu, les Français s'en sont emparés, il y a eu énormément de propositions. Comme vous le disiez très justement, maintenant il y a une vraie attente. Alors, est-ce que symboliquement il est réussi? Oui. Est-ce que politiquement il le sera? Ça reste à voir. N'oublions pas quand même que le président, lorsqu'il l'a lancé, a dit « nous allons en débattre, mais nous ne changerons pas le cap ». Alors là, il y a quelque chose d'assez étrange pour un débat quand même, qui est de dire vous pouvez toujours en parler, mais je suis pas sûr que ça change grand-chose.
Ça me rappelle, pardonnez-moi, je vous interromps une seconde, ça me rappelle une phrase géniale de Godard, le cinéaste suisse, qui disait les débats à la télé, ça sert à rien, parce qu'à la fin, personne ne change jamais d'avis.
C'est assez vrai. Et là, en plus de ça, c'est pas tant que ça allait nous ou pas nous faire changer d'avis, c'était vous allez débattre de la justesse ou non de mon offre politique. Et là, on en arrive à la deuxième phase qui reprend votre question. Est-ce qu'il sera politiquement réussi? Est-ce que le gouvernement saura trouver une latitude pour répondre aux attentes des Français qu'ils ont exprimées hyper clairement? Il y a des pistes sur la TVA 0% sur les produits de première nécessité, peut-être un peu sur l'ISF, peut-être également sur l'indexation des retraites et l'inflation, il y a des pistes,
il y a des
attentes.
Ce ne sera pas ce ne sera pas suffisant.
Juste un mot, après je donne la parole.
Juste très rapidement, entre le fait que le gouvernement ou même Emmanuel Macron avait dit nous garderons le cap, je suis d'accord avec vous, certains ministres, dont notamment Sibeth Ndiaye dans nos colonnes, mais ce n'est pas la seule, qui disait encore ce matin, après le grand débat, plus rien ne sera comme avant. Vous voyez un petit peu la synthèse qu'il faudra faire entre garder le cap et plus rien ne sera comme avant. Soit c'est le vide complet. Oui. Soit c'est le vide complet, l'abysse politique qui nous attend au bout du compte, soit au contraire c'est quelque chose qui va sortir entre guillemets d'extraordinaire, parce
exactement.
Que la politique c'est ça.
J'allais
aussi.
J'allais en parler, Jeanne
Calmi.
La Calmi.
Politique c'est ça aussi, c'est trouver des marges de manœuvre et des raisons de décider, des viviers de décision auxquels on ne pense pas et qui permettent de sortir de l'impasse.
Alors justement, les institutions disent que le président Macron, qui doit annoncer des prochaines mesures pour la mi-avril, il cherche des mesures qui marquent, il appelle ça des mesures avec un effet waouh.
Oui, oui.
Et ben alors,
l'effet waouh.
Moi, j'aime pas ça. J'aime pas cette expression.
Oui, mais c'est la sienne. Hein.
Eh ben, non,
vous lui direz quand vous le verrez.
C'est de mauvais augure.
Pourquoi, pourquoi
parce que je n'aime pas les expressions en politique, surtout dans ce degré de crise que nous vivons, voire de drame. Je n'aime pas ces expressions qui raccourcissent la pensée et qui n'empêchent pas de réfléchir et qui empêchent de réfléchir.
Aujourd'hui, prenons. On parlait de l'énergie tout à l'heure. On va pas y revenir. Prenons par exemple le premier poste de dépense, parce que on parle de la TVA à 0%. Franchement, que vous payez votre baguette 95 centimes d'euros quand vous l'achetez dans une grande surface, ou 1,05€.
Oui, c'est marginal, c'est
boulanger.
Ce que vous voulez dire.
Vous allez supprimer la TVA 5,5 sur les produits de première nécessité pour être à combien ? Pour être à 90 centimes. C'est pas ça qui a un impact financier. Aujourd'hui, les Français, ils sont, excusez-moi du terme, dans la merde à la fin du mois, sur trois postes de dépenses. L'énergie, le logement et les dépenses incompressibles qui sont liées aux abonnements, etc., etc. Bon, sur ça, il y a des choses qui sont faites. Les abonnements, on essaie de mettre plus de concurrence, on peut rompre
les dépenses contraintes.
Ok. Sur le logement, on a 12,5% de mise en chantier en moins, là. Il y a une situation grave. En même temps, on peut aujourd'hui donner une harmonie au discours, qui est celui d'En Marche et d'Emmanuel Macron, et à l'objectif d'efficacité. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on est obligé de financer le logement social partout en France ? Oui ou non ? Posons la question. Force est de constater que non. Il y a des endroits où le logement social est plus cher que le logement privé parce qu'il n'y a pas de marché. Est-ce qu'on met le paquet sur les zones tendues ? Et par exemple, voilà, la France dit aujourd'hui, il faut produire tant de centaines de milliers de logements. Ça, c'est quelque chose de concret, de précis, etc. Mais là, aujourd'hui, les Français disent il y a un problème sur le logement, on réduit l'accession sociale à la propriété, on supprime l'APL accession, on réduit l'accès au prêt à taux zéro pour la rénovation énergétique. Donc, garder le cap. Et en même temps, De Normandie est un très bon ministre avec des très bonnes mesures, etc., de simplification. C'est pas le sujet. Mais là, il faut l'effet waouh, si on devait le traduire par quelque chose
de plus intelligent.
C'est quelque chose de concret, quelque chose qui change la vie des gens et qui peuvent voir, voilà, très concrètement.
Moi, attends, Alexandre Kouchner,
surtout si la fin du grand débat national se résume à une grande opération de communication. On cherche de l'effet waouh. Comme, dans ce cas-là, on passe.
Non, mais ça peut être une mesure absolument incroyable.
10 milliards,
ça peut être une mesure incroyable. Je vais vous donner des exemples. La libération, l'autorisation de l'avortement, la libération de la pilule, la fin de la peine de mort.
Mais
c'est ça.
Vous imaginez Simone Veil dire énorme... j'ai une mesure, c'est l'effet waouh.
Mais non, mais parce qu'on parle plus comme ça, c'est pas le même langage.
Dites-moi, vous dites on légalise le cannabis à la fin du débat.
Il veut dire ce que veut dire le président. Je vais me faire l'avocat avec les gestes du président. Il veut dire. Une mesure très très forte qui parle à tout le monde.
Il n'y aura pas, pardon Alexandre,
voilà ce qu'il veut dire.
Il n'y aura pas une mesure, tout le monde le sait, il y aura non pas un catalogue de mesures, mais une sorte de programmation des mesures, avec des mesures prises à court terme, des mesures législatives à plus long terme, à moyen terme, et des mesures peut-être plus lourdes qui nécessiteront peut-être des réformes constitutionnelles, voire des référendums, etc. Donc il ne faut pas s'attendre à une mesure miraculeuse et pas, il faut espérer à un égrenage de petites mesures les unes après les autres, premièrement. Deuxièmement, on a parlé aussi tout de même d'une sorte de grand Grenelle qui engloberait bien sûr les syndicats, le patronat et les associations. Moi, je pense que le gouvernement, j'en sais rien, une des pistes que pourrait ouvrir le gouvernement, c'est d'associer dans un nouveau contrat social les entreprises. Comme ils l'ont fait avec la prime d'activité qui a débloqué je ne sais plus combien de milliards d'euros, pardonnez-moi, versée par les grandes entreprises et même les moyennes, je pense que là, ils pourraient faire en sorte que le modèle social réenclenche une nouvelle dynamique avec quels moyens de pression, quelles demandes de contrepartie à demander aux entreprises. Je n'en sais rien,
je vous suis,
mais là, ça pourrait faire une sorte de bing-bang.
Je vous suis complètement 30 secondes. Là-dessus. Voilà. Une mesure simple, efficace, sociologie des gilets jaunes, ma femme, mon cousin, les gens que vous avez dans la famille, première année, création d'entreprise, TPE, on fait zéro fiscalité. Voilà.
C'est
on
ce
a
que j'en...
20 à 25% des boîtes qui ratent la première année, justement à cause de la fiscalité. Elles payent avant même d'avoir réussi.
Je ne pensais pas à ça, mais pourquoi pas.
Alors que de grands groupes, par l'optimisation, arrivent à ne rien payer la première année sur la création d'une filiale. TPE, PME, on envoie un message massif. Créez votre boîte cette année. C'est gratis.
Vous savez quoi ? J'ai presque envie de vous dire waouh. On se retrouve juste après ça.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est exactement 19h49, suite et fin de notre grand débat d'actu sur Europe 1. On vous retrouve, Philippe Vandel, entouré de vos invités, Alexandre Kouchner, co-rédacteur en chef de la revue Européen, Razi Hamadi, fondateur de News Tank City, Cities même, ancien porte-parole et député PS, et Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien.
On va parler du Parti Socialiste, mais pas seulement. Le jeune philosophe Raphaël Glucksmann de Place Publique va donc conduire la liste PS aux Européennes. Il tenait hier son pré-meeting à Toulouse, avec des approximations à-t-on noté. Ma question est générale. Et si ce choix était une fausse bonne idée, vous avez suivi, ça vous fait sourire, Razi Hamadi. Suivi le meeting de Raphaël Glucksmann hier.
Non, c'est toujours difficile pour moi, parce que j'ai toujours une affection pour tous mes amis qui sont engagés, qui sont sur le terrain, dans une situation qui est pas simple.
Et évidemment.
Ça reste mon parti de cœur. Attends, je résiste pas à vous raconter cette anecdote. Sur Twitter, quelqu'un avait lancé un concours en disant « Racontez-moi une histoire triste en trois mots ». J'ai pas résisté à écrire « Le Parti Socialiste
».
Pourquoi je dis ça ? Parce que au-delà de la question de Glucksmann ou pas Glucksmann, c'est stratégiquement le Parti Socialiste.
Alors attendez, on va parler de la stratégie après, mais d'abord
Glucksmann. C'est lié.
Alors allez-y.
C'est lié, le Parti Socialiste fait l'impasse sur les Européennes. Au début, c'est ça l'idée, c'est de dire on va pas bien réussir les Européennes. Bon, donc si on met pas en numéro un quelqu'un qui est pas des nôtres, et si on en fait pas un enjeu, bon, donc quand vous faites de quelque chose autre chose qu'un enjeu prioritaire, est toujours moins compliqué de laisser la place aux voisins. Deuxième chose, le Parti Socialiste refuse d'assumer sa responsabilité de gouvernement, que ce soit en mal ou en bien. Donc à partir du moment où vous êtes un parti européen, vous décidez d'être en retrait sur la campagne européenne. Vous êtes un parti de gouvernement, vous êtes en retrait sur l'analyse de votre expérience de gouvernement. Bon, ben à la fin, quand vous arriverez au municipal, on dira « mais nous, on a voté aussi pour vous au municipal parce que vous étiez européen de gouvernement ». Donc, donc tout ça pour dire que je ne sais pas trop quoi en penser, mais il y a des choses quand même qui sont surprenantes. Sylvia Zappi, confrère du Monde, qui faisait un retour sur événement de l'intervention de Glucksmann à Toulouse, en Haute-Garonne, ouais, devant les militants socialistes. Et j'ai été surpris qu'elle n'ait pas relevé le fait qu'ils disent « Je suis fier d'être du parti, d'être devant ceux qui, Jaurès, Blum, Mendès, Rocard, il n'a pas cité Mitterrand ». Et dans le Parti Socialiste, ça c'est un truc à ne pas faire. Ouais. Mmh. Même si on n'est pas Mitterrand,
parce que peut-être que au-delà de la stratégie électorale du Parti Socialiste, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on saute?
Non, mais il a raison. Vous imaginez la tête de Mitterrand si on avait dit, tu sais quoi, on n'a pas de socialiste et on va être conduit par Raphaël Glucksmann.
Mais la vraie question, c'est pas est-ce qu'ils doivent ou non être conduits par Raphaël Glucksmann. La vraie question, c'est pourquoi ils en sont là. La vraie question, oui, c'est comment se fait-il qu'il y ait le PS,
on refait pas l'histoire de la gauche. Non.
Mais
on est là à 22h.
C'est l'éclatement total de cet électorat. Il y a la dernière enquête d'opinion montre que 50% des Français ne font pas la différence entre les programmes de gauche. Ils se disent que c'est exactement la même chose. Ouais. Il y a là une forme d'arakiri politique extrêmement, mais psychologiquement très étonnant. Alors, est-ce que Raphaël Glucksmann est le meilleur pour porter la liste ou pas ? En tout cas, un, lui a le courage d'y aller. Deux, il y va avec une certaine forme de naïveté et de fraîcheur qu'on va lui reprocher. Ouais. On ne peut pas en même temps vouloir renouveler la classe politique le nouveau et tous les codes.
Mais on ne peut pas être frais et un vieux classique en même temps.
Exactement. Et il pose une question qu'il a posée même durant le débat télévisé, à la fin, dans cette conclusion qui semblait un peu maladroite presque. Mais il a posé une vraie question qu'en tout cas, les électeurs de gauche se posent. Il a dit, mais comment on en est là ? Pourquoi est-ce que Benoît Hamon, Yannick Jadot et lui-même
pourquoi on n'est pas ensemble là ?
Il y a une question légitime.
Je sais que vous avez dû le voir au service politique du Parisien.
Je peux vous dire ce qu'a écrit Jeannick Halimi là-dessus dans le Parisien.
Attendez, faut être quand même un petit peu honnête du point de vue de l'éthique.
Pardon. Je veux répondre à la place de Jeannick parce qu'elle a écrit dans le Parisien le lendemain. Vous avez qualifié les candidats et vous avez dit laborieux. Et vous avez dit, Raphaël Glucksmann, justement, a manqué de clarté.
Eh ben, je ne sais pas ce que vous vouliez dire.
Ce que je voulais dire, c'est que s'il voulait, par exemple, se rassembler réellement, disons, qu'importe les torts des uns et des autres, avec Benoît Hamon, il n'en porte pas avec lui, le lendemain de sa désignation, la numéro 2 de la liste de Benoît Hamon. Ce qui s'est passé.
Sauf que Benoît Hamon avait déjà refusé. Tout ça petit jeu ridicule.
Je suis d'accord.
Mais oublions le petit jeu.
Ce
qui m'intéresse, c'est la personne déjà. Parce que qu'est-ce qu'une élection ? Ce sont des gens qui votent pour une liste et qui sont parfois portés par la liste, par le charisme de la personne qui est là. C'était le premier meeting de Raphaël Glucksmann. On va entendre un extrait. Lui-même se définit en marge, différent des autres. Il a même du mal à se définir. Extrait.
Comme vous savez, en fait, j'ai pas encore tous les codes de la politique traditionnelle, et je suis pas encore non plus dans tous les codes du stand-up. J'hésite encore entre les deux.
Non mais quand il fait référence au stand-up, ou alors c'est moi que ça étonne, mais le stand-up c'est un exercice de comique. C'est Kev Adams, c'est Jamel Debbouze le stand-up.
Écoutez, c'est dramatique parce que bon, le Parti Socialiste, en tout cas Olivier Faure, comme d'ailleurs toutes choses égales par ailleurs les Républicains, ont voulu miser sur la carte de l'intellectuel engagé pour Glucksmann. Je vais prendre un petit peu la défense d'Olivier Faure. Olivier Faure vous explique un an après son élection à la tête du Parti Socialiste que il n'a pas arrêté de batailler contre les cassites, contre les batailles d'égo. Et qu'il a essayé de sortir le Parti Socialiste de cette ornière en jouant la carte de la modestie. C'est un coup de poker, hein. Et en essayant de mettre quelqu'un qui n'était pas socialiste à la tête de cette liste pour montrer que le Parti Socialiste était prêt à entendre les autres, à tendre la main à d'autres.
Oui.
Ce que le Parti Socialiste a fait, ce qu'Olivier Faure a fait vis-à-vis de Yannick Jadot et même de Benoît Hamon, sauf que ces deux-là, même en prenant la tête de liste, ont refusé. Donc il faut aussi c'est sûr et certain. Donc moi j'ai envie de retourner un peu le gant parce que c'est vrai qu'on a tout dit sur le Parti Socialiste qui est dans un état de d'émiettement avancé, que Glucksmann effectivement, il le dit lui-même, n'est pas l'homme idoine, mais je voudrais quand même essayer de mettre un dièse à la portée d'Olivier Faure qui fait ce qu'il peut faire dans un contexte de parti cassé de toutes parts. Et puis on verra, c'était peut-être la seule carte à jouer.
Le mot
de
la fin, ce que ça donnera. Alexandre Kouchner.
Pour renouveler, il faut des nouveaux visages, il faut des nouveaux discours. Certains seront plus malheureux que d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de temps en temps, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas les codes, eh ben peut-être que c'est ça qui en crée des nouveaux.
Peut-être.
Magnifique mot de la fin. Merci beaucoup Jeannick Halimi, rédac chef adjointe du service politique du Parisien. Merci Razia Madi, fondateur de News Tank City, ancien porte-parole et député PS qui parler de ses amis, ses anciens amis, ses amis actuels, mais son ancien parti. Et Alexandre Kouchner, cofondateur de la revue Européen. Merci d'avoir été avec nous. Et on voulait parler de l'alliance du Front National, du Rassemblement National et de Matteo Salvini. Ça nous fait un magnifique débat pour la semaine prochaine ou la suivante. Dans un instant, on va parler sport sur Europe. Vous retrouvez Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Philippe.
Vous allez parler de quoi? Du record du PSG?
Il faut que déjà le Paris Saint-Germain gagne contre Strasbourg ce soir.
Ils ont déjà le record du nombre de buts, ou vous allez parler de la débâcle lyonnaise-marseillaise?
On parlera de tout ça, débâcle lyonnaise-marseillaise, mais évidemment le Paris Saint-Germain qui peut être champion ce soir en battant Strasbourg.
Voilà, et puis je suis très déçu parce que je vous écoutais hier et j'ai appris que finalement Ben Arfa n'irait pas à Saint-Etienne. Voilà ce que c'est que d'écouter des gens très bien informés. Merci Lionel, nous on se retrouve samedi prochain à 18h avec Marlène. D'ici là, bonne soirée, bonne écoute d'Europe 1, à très bientôt.